parce que je vous rappelle que nos séances se terminent à 22h30. Donc si on va avoir le temps des deux interventions de présentation et ensuite d'un débat, il ne faut pas qu'on attende trop longtemps. Donc le thème de notre réunion de ce soir, c'est l'accès aux soins dans la Vienne et surtout son devenir, compte tenu notamment de la démographie médicale. Nous avions eu l'idée de ce thème il y a quelques mois, suite à un débat qui avait eu lieu au Conseil général de la Vienne, à propos de la possibilité de financer des recherches de médecins à l'étranger pour compenser l'absence de médecins dans certaines zones périphériques du département, qui avait donné lieu à un échange de points de vue important. Et puis, dans le même temps, le Conseil de l'Ordre des médecins, du reste autant au niveau national que départemental, depuis plusieurs années, fait état de certaines inquiétudes à propos de l'avenir des professions médicales et des modalités d'exercice des nouveaux médecins qui pourraient être en décalage avec les besoins ressentis au niveau des territoires. Et puis, enfin, le sujet a été un peu réactualisé dans une perspective un peu différente. Il y a une semaine, avec la publication d'une étude par l'association Que Choisir sur les difficultés d'accès aux soins, en permettant du reste à chaque citoyen, en choisissant sur un logiciel qui est publié sur Internet, en mettant sa commune et les plusieurs spécialités, on peut savoir quel est le niveau de couverture et les conditions d'accès aux médecins en fonction de leur secteur d'exercice. Par exemple, sur l'agglomération de Poitiers, je crois qu'en général, à la fois la couverture médicale est tout à fait satisfaisante, et en plus, chaque spécialité offre la possibilité d'un accès en secteur 1, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'endroits. Hein, c'est vraiment une particularité de notre région. Mais dans les zones en France où cette absence d'accès... Alors, il y a deux difficultés d'accès qui sont identifiées par cette étude. De larges zones du territoire qui ne sont plus couvertes. Et, à l'inverse, dans des zones plutôt bien couvertes quantitativement, l'impossibilité d'accéder liée à des tarifs exorbitants pratiqués par certains confrères. Et puis... toujours dans l'actualité, hier, une convention médicale a été signée entre les principaux syndicats de médecins d'exercice libéral et la Sécurité sociale, prenant notamment en compte, alors après on verra ce que ça deviendra, les spécificités de l'exercice dit en secteur 2, c'est-à-dire à tarif libre. Donc c'est un petit peu le contexte de notre soirée. Donc deux intervenants, Xavier Moynier, qui est conseiller général de la Vienne, du canton de Saint-Julien-l'Art, qui est membre de l'opposition et qui s'occupe tout particulièrement dans son parti, le Parti Socialiste, des questions de planification sanitaire. J'écorche un petit peu la thématique, mais enfin, Xavier saura préciser. Et puis le docteur Champin, médecin généraliste à Poitiers et qui exerce depuis plusieurs années les fonctions de vice-président du Conseil départemental de l'Orne, donc qui a une double expérience en tant que médecin de terrain et en tant que membre d'une instance qui a pour charge d'essayer d'anticiper un petit peu l'évolution de la profession. Donc je vous laisse la parole et je crois que c'est Xavier Moynier qui commence.
Ça fonctionne, vous m'entendez là? Oui, très bien, bon, voilà, on va fonctionner comme ça. Bonsoir à vous tous et vous toutes. Alors, merci notamment au président et aux bénévoles de cette association, enfin aux militants de cette association, pourrais-je dire, au regard de la thématique de l'association qui est pour le moins surprenante. Hein. Donc on m'a effectivement invité ce soir, et je vous en remercie, pour évoquer une problématique de territoire qui est bien sûr ici la problématique de la désertification médicale. C'est vraiment ce sur quoi je vais travailler ce soir avec vous. Situer le contexte, alors Roland, tu as évoqué ce débat. En fait, le débat qui avait agité le Conseil général à ce moment-là, c'était malheureusement de faire le constat, et ça, il y a unanimité, quelles que soient nos sensibilités, sur cette désertification médicale. Et en fait, ce qui nous avait interpellés, nous, dans notre groupe, là, c'est qu'on avait effectivement ici à constater que le Conseil général, il avait été demandé par un conseiller général de financer 12 000 euros pour aller chercher des médecins à l'étranger. Et on demandait au conseiller général notamment d'abonder à hauteur de 6 000 euros la communauté de communes s'engageant à payer les 6 000 euros restants pour financer un cabinet de chasseurs de têtes, hein, on peut appeler ça comme ça. Hein. C'était ça l'idée. Hein. 12 000 euros pour aller chercher des médecins à l'étranger, on trouvait que c'était un peu fort de café. Et d'ailleurs, malgré que nous soyons dans l'opposition et pas majoritaire par définition, hein, cette proposition avait été retoquée, ce qui avait créé la polémique que vous avez peut-être lue dans la presse. Le conseiller général est évidemment fortement fâché, mais on l'aurait été à moins. C'était pas tant sur le problème de savoir s'il fallait des médecins dans ce canton-là, qui est en l'occurrence Saint-Gervais, hein, le canton de Saint-Gervais. C'était surtout de se dire, est-ce qu'on en est rendu finalement aujourd'hui à carrément financer, hein, des cabinets qui faisaient chasseurs de tête, donc en fait engraisser des cabinets qui vont aller chercher des médecins en Roumanie en l'occurrence, puisque c'était le cas d'espèce, même si nous n'avons rien sur... personne n'avait d'avis sur la qualité de médecine pratiquée en Roumanie par les médecins roumains qui sont quelquefois d'ailleurs formés en France. Donc c'est ce qui avait déclenché ces interrogations et je pense les questionnements quant aux politiques, hein, qui pouvaient être menées par les collectivités territoriales. Ces politiques, ça ne vous échappe pas, étant financées pour ceux qui ont la chance de payer des impôts, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de payer des impôts. Donc je dis bien ceux qui ont la chance de payer des impôts, parce que je le pense, que c'est une chance de pouvoir payer des impôts, qu'on est tous contribuables, et donc forcément ça nous interroge, hein, de la bonne utilité de l'argent public, et la collectivité territoriale, évidemment, à prendre soin à cet argent. Donc ma réflexion, elle va être plus axée sur le département de la Vienne, mais de manière... Enfin, j'ai eu une approche un peu spécifique, parce que je suis également universitaire, donc je n'ai pas focalisé mon travail sur la Vienne. Hein. J'ai, de manière générale, essayé de regarder ce que peuvent apporter les collectivités territoriales dans quels sont les dispositifs qui peuvent être mis en place par les collectivités territoriales pour lutter contre la désertification, étant entendu que forcément ici on ne se nourrit que de ses expériences, un petit peu de celles des autres, mais c'est moins facile d'en parler, donc je ne serais pas à cette place si je n'avais pas un peu d'expérience personnelle à ce sujet-là. Donc je vais évidemment ici vous parler du cas de la Vienne, le dispositif mis en place par le Conseil général de la Vienne, également plus largement le dispositif mis en place par la région Poitou-Charentes, hein. Mais bon, sans entrer dans les détails parce que nous n'en avons pas le temps, si on regarde l'ensemble des dispositifs nationaux, cette approche un petit peu plus large que j'ai également travaillé puisque je faisais partie des personnes qui, en responsabilité au niveau des instances du parti auquel je suis adhérent, nous avons évidemment ici construit une plateforme. Et donc cette plateforme, nous l'avons conduite sous la houlette de Marisol Touraine, que tout le monde connaît aujourd'hui, hein, puisqu'elle est ministre de la Santé. Et on avait eu un travail très intéressant sur un retour d'expérience de président de région et de président de conseil généraux qui, justement, nous avait un petit peu rendu compte des investissements qu'ils pouvaient faire, des expériences qu'ils en avaient tirées, des frustrations aussi que ça pouvait générer, parce qu'on verra qu'un certain nombre de dispositifs sont coûteux et très décevants. Alors pas très décevants parce qu'ils sont coûteux, ils sont coûteux parce que malheureusement on n'a pas forcément les résultats qu'on espérait. Un certain nombre de dispositifs, notamment sur le financement de la santé et particulièrement sur le fait de pouvoir faire venir de jeunes médecins, de jeunes praticiens et de les fidéliser à un département ou à une région. Et ces dispositifs étaient très, très discutés, par quelques-uns d'ailleurs remis en cause fortement. D'autres avaient des retours plutôt favorables. Donc c'est un petit peu toutes ces réflexions que je vais effectivement partager avec vous. Donc dans ce plan, pour le moins très basique, hein, nous avons effectivement un diagnostic local à faire, hein, des dispositifs locaux que nous évoquerons. Alors vous voyez, j'ai volontairement envisagé ça avec l'Association des régions de France qui a fait un travail sur cette thématique-là. Et puis l'Assemblée des départements de France, mais avec un focus particulier sur la région Poitou-Charentes, qui nous est chère, et évidemment le département de la Vienne, qui m'est un peu plus cher que tous les autres. Enfin, nous aurons évidemment ici aussi, pour susciter un peu le débat et peut-être hérisser les poils de quelques-uns d'entre vous, j'ai mis volontairement « Pensée globale pour agir local ». Vous savez, ça c'est un slogan très à la mode. Hein. J'aurais à partager avec vous des réflexions, enfin pour le moins des pistes qui sont très, très provocantes, mais c'est tout l'intérêt du débat, sinon ça ne serait pas rigolo, hein. Parce qu'on arrivera un petit peu plus, on sera avancé dans la soirée, donc pour pas que vous endormiez, je vais vous secouer un petit peu, vous secouer par des prises de position qui sont très tranchées, que j'évoquerai en conclusion, et ensuite je laisserai la parole au docteur, qui lui aura évidemment une approche beaucoup plus pratico-pratique, et qui aura raison de me dire que je parle bien d'un sujet que je ne connais pas, puisque je ne suis pas médecin. Mais bon, c'est pour ça qu'on va échanger ensemble. La première partie, c'est le diagnostic local. Alors, le diagnostic local, on va faire confiance à l'Agence régionale de santé, qui met en exergue effectivement ce qu'on appelle des projets de zone d'accompagnement prioritaire. Alors ce petit graphique, je ne sais pas s'il est très lisible parce qu'évidemment la restitution n'est pas bonne. En fait, on voyait quoi? On voyait des cantons qui étaient ciblés, Civray, Jansey, Châtellerault, Mirebeau. Alors sur Apple, ça marchait bien. A priori, ici, dans le copier-coller, ça n'a pas fonctionné. Donc en fait, l'ARS nous dit quoi? On a effectivement des zones vraiment prioritaires où ça ne va pas du tout. Le canton de Mirebeau, Châtellerault, et Jansey et Civray qui est dessous, là, hein, où on a identifié effectivement un déficit important. Donc l'ARS cible ici des territoires, hein, et ces territoires vont évidemment ici faire, vont servir pour la politique notamment départementale, pour le Conseil général, vont être effectivement des terres de mission, si vous me passez l'expression, hein, ces terres de mission, on va accentuer fortement l'effort pour inciter de jeunes internes à s'installer sur ces cantons. Alors je ne veux surtout pas stigmatiser ces cantons, hein, parce que mes collègues seraient très fâchés, hein, mais néanmoins, bon, ça c'est le point de vue de l'ARS. Également, un autre éclairage que nous pourrions avoir, c'est, là vous le voyez, hein, les différentes structures qui existent. Donc nous avons les pôles de santé, les maisons de santé ou les centres de santé. Bon, petite spécificité, c'est que le centre de santé, c'est quelque chose qui est développé par la région Poitou-Charentes, hein. Particularité, sans rentrer dans le détail des centres de santé, c'est qu'on a ici une structure qui est portée, on va dire entre guillemets, par, enfin qui a vocation à être ici portée par des organismes, qui sont à but non lucratif. En fait, le centre de santé, finalement, a une spécificité, c'est qu'on va salarier, hein, les acteurs de santé. De façon beaucoup plus traditionnelle, on retrouve effectivement ici soit les pôles de santé, qui sont en vert ici, soit les maisons de santé que vous connaissez, hein. On va présenter plus en détail, hein, mais les maisons de santé traditionnelles, qui aujourd'hui, on le vend en poupe, hein, au niveau de la France. Alors, j'ai des études très contrastées parce que je regardais une étude de la MGE, notamment dans Valeurs Mutualistes ici, qui me donnait un chiffre de 450 aujourd'hui maisons de santé en France, 1000 qui sont en cours d'élaboration, de construction. Et puis on a d'autres chiffres qu'il a ici, que j'ai retrouvé également, qui laissent à penser qu'aujourd'hui on est sur plutôt 1500 à 2000 maisons de santé. Enfin, dans tous les cas, c'est une pratique ici qui se développe. Ces maisons de santé, elles sont soit portées par les départements, soit portées par les régions. Et finalement, vous savez que par ces financements croisés qui font tant parler, ces maisons de santé, elles sont finalement portées et par les départements et par les régions. Dans tous les cas, ce qui est important ici dans cette démarche, c'est finalement une volonté publique, hein, c'est une collectivité quelle qu'elle soit qui porte ici ce projet de santé avec des médecins. Mais en fait, finalement, on est les bâtisseurs, hein, la collectivité finalement contribue à bâtir ces lieux qui ne sont que des lieux physiques. Je pense que le docteur qui représente l'ordre à côté de moi va vous le rappeler, hein, ici, la maison de santé, ce n'est pas le médecin. C'est simplement ici, on est vraiment dans la mise à disposition d'un bâtiment. Mais on peut effectivement construire les plus belles cathédrales. Si les médecins n'ont pas envie de travailler dans ces belles cathédrales, et certains médecins d'ailleurs ne travaillent pas dans de belles cathédrales, c'est pas ce qui est le seul élément qui peut faire venir, et on verra ça plus tard. À partir de là, on peut évoquer les dispositifs locaux, donc avoir une approche plus politique, on va dire, des choses, hein. L'aide des collectivités territoriales, vous voyez, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les maisons de santé pluridisciplinaires, les pôles de santé et centres de santé. Je vais volontairement éviter de faire le distinguo entre ce que pratique le Conseil général de la Vienne et ce que pratique la région Poitou-Charentes, puisque ça ne vous aura pas échappé, les sensibilités majoritaires sont différentes. Mais il y a véritablement un consensus, hein, parce que qu'on soit de droite ou de gauche, de toute façon, quand on est malade et qu'on n'a pas de médecin, on est en souffrance, hein, ça c'est une évidence. Et donc il y a une volonté commune de construire quelque chose, de construire des dispositifs locaux. Donc vous voyez les maisons de santé, redéfinir un petit peu ce que c'est, parce que tout le monde n'est peut-être pas médecin, tout le monde n'est peut-être pas spécialiste ici, quoi, je pense que beaucoup sont intéressés, donc connaissent. On réunit les professionnels de santé médicaux et paramédicaux sur un même lieu, c'est la particularité de la maison de santé. Les pôles de santé pluridisciplinaires, comme leur nom l'indique, évidemment regroupent sur un même territoire des professionnels de santé différents, hein, mais cette particularité, c'est que le lieu d'exercice, hein, peut être effectivement ici différent. On n'a pas cette obligation de partager des locaux. En fait, ça relève plus d'un aménagement du territoire, hein, de zones géographiques qui sont déterminées, dans lesquelles on va retrouver plusieurs professions de santé. Et nous avons les centres de santé pluridisciplinaires, ce que je vous expliquais. j'insiste bien, médicaux et paramédicaux, parce que d'abord je me ferais fâcher, parce que mon épouse travaille dans le domaine paramédical, elle me dira, mais il n'y a pas que les médecins, hein, il y a d'autres professions de santé qui sont importantes sur les territoires. Je pense notamment aux sages-femmes, aux kinés, également aux infirmières. Hein. Donc là, vous voyez, hein, et les pharmaciens, effectivement.
Podologues.
Je me doutais. Et Philippe me dit, ping, oh, j'ai oublié ça. Et les pharmaciens, effectivement, qui eux sont là dans ce centre, les centres de santé pluridisciplinaires, on voit bien la spécificité, c'est basé sur le salariat, ça, c'est un point de débat d'ailleurs, hein. Basé sur le salariat, je vous l'ai dit, géré par un organisme à but non lucratif ou une collectivité territoriale, parce que ça existe aussi, hein. Les collectivités territoriales peuvent aller plus loin, hein, parce que dans ce schéma-là, vous avez les centres de santé pluridisciplinaires où clairement, on est maître d'œuvre du bâtiment, mais on est aussi clairement, finalement ici, maître d'œuvre de la politique de santé de son territoire. Ça, c'est très particulier, c'est, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est l'aboutissement de d'une forme de décentralisation très spécifique, hein. On est là vraiment sur une organisation fédérale ou sous la forme de Länder, où véritablement il y a un territoire qui prend en charge une politique, finalement, enfin une compétence régalienne, hein, ici, notamment la santé pour tous. Donc, comment ça s'articule? Bien, en fait, reprendre ces dispositifs, on a vu trois types de dispositifs. Si on compare, et ça c'est étonnant, pour le moins amusant, quand on regarde ce que propose la région Poitou-Charentes et ce que propose le département de la Vienne, on voit que finalement, bon, cette idée de création d'aménagement et de réhabilitation de locaux, hein, où on va regrouper des professionnels de santé dans des communes, dans des lieux géographiques. Et ça ne nous a pas échappé, puisque c'est un peu la thématique du soir. On va évidemment ici pallier les insuffisances, professionnelles de santé en milieu rural. Et ça, c'est amusant également. Alors, quand je dis amusant, c'est une vue de l'esprit. Hein. C'est étonnant, en fait, parce qu'au début, on était très focalisé sur la ruralité. Moi, je suis un élu de périurbain, me dit-on. Alors, ça dépend où je suis, hein, selon la partie où je suis. Quand je suis proche de Poitiers, je me sens effectivement périurbain. Quand je vais un peu plus loin dans mon canton, je peux vous dire qu'on est vraiment un élu rural. Donc, on s'est longtemps, effectivement, focalisé sur la ruralité. Et on constate que, par exemple, dans des quartiers comme Châteauneuf, je ne vais pas stigmatiser Châteauneuf, mais à Châtellerault, eh bien, il y a un déficit de médecins. Et là, on est pour le moins dans le cœur de la ville. Pour tout vous dire, on est aussi dans le cœur de la misère sociale et médicale. Et donc là, on se rend compte que bien aussi, des jeunes médecins n'ont pas forcément un enthousiasme très fort à vouloir s'installer dans des quartiers dits difficiles, où effectivement, on a une médecine un peu spécifique. Cette médecine spécifique, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Le docteur pourra peut-être nous le dire plus que moi, mais moi, ce que je vois surtout, c'est qu'au-delà de l'aspect médical, il y a une prise en charge sociale qui est importante également. Et donc, ça peut poser quelques difficultés à un jeune médecin qui s'installe, parce que autant sur l'aspect médical, le jeune médecin est bien formé. Il y a des situations sociales très spécifiques, et je pense que c'est quand même l'apanage des médecins à guérir.
J'ajouterais l'insécurité aussi.
Et l'insécurité, là, pour être franc, à Châteauneuf, pour y aller assez souvent, et pour y garer ma voiture, depuis quelques années, je fréquente beaucoup ce lieu, c'est pas véritablement l'insécurité, mais il y a des endroits où il est carrément, c'est un exploit de faire de la médecine.
Tout à fait.
Il y a d'ailleurs une médecin célèbre qui avait fait un ouvrage dont le nom m'échappe et qui expliquait le nombre d'agressions qu'elle avait vécues dans un quartier difficile de la banlieue parisienne, et ça fait énormément peur. Donc je vous disais donc, c'est insuffisance en milieu rural, mais maintenant périurbain ou urbain, vous constaterez, enfin vous avez pu constater sur la belle carte que je vous ai présentée de l'ARS, qu'il y a notamment une maison médicale, hein, maison de santé qui va se construire, qui est en projet à Bignoux. Bignoux, c'est 5-10 minutes de Poitiers, et vous voyez qu'on est pas très loin de Poitiers, et on a des problématiques de médecins. Et de médecins et de personnel paramédicaux. Donc il n'y a pas besoin d'aller très très loin, donc on est vraiment dans le périurbain. Et puis également dans l'urbain, je l'ai expliqué. On a évidemment ici une politique des dispositifs locaux qui sont mis en place, et on a aussi des contreparties, c'est un minimum. Donc la permanence de soins, faut-il le rappeler. La tarification du secteur 1, c'est un sujet d'actualité, me semble-t-il, hein. Donc le secteur 1 obligatoirement pratiqué. Et puis ça, c'est un autre contrat, entre guillemets, qui est imposé. C'est qu'on demande aux praticiens ici, hein, d'être présents sur une durée de 5 ans. Et j'ai comparé ce que fait la région, ce que fait le département de la Vienne. On est sur des mêmes durées. C'est-à-dire que concrètement, hein, quand on signe ce contrat, quand on s'installe, on a évidemment cette volonté de s'installer durablement. Donc on y est au moins pour 5 ans. Petite spécificité de mémoire, j'avais noté ça, que les collectivités qui ont à avoir ces aides, elles doivent par contre dédier ces locaux, hein, à la médecine, ben, à la santé, c'est de l'ordre de 7 à 10 ans, hein, où vous ne pouvez pas finalement proposer ce bâtiment pour y mettre une boulangerie, une pâtisserie ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, c'est vraiment dédié à un usage médical ou paramédical. Particularité également de la région Poitou-Charentes, c'est qu'on a mis en place un dispositif qui conduit notamment les médecins à accueillir des professionnels de santé en formation. Ça, c'est un engagement. Et puis pour le département de la Vienne également, ce qui est amusant, c'est que d'un côté, on aide à l'accueil des jeunes praticiens, c'est la région Poitou-Charentes, et de l'autre, aujourd'hui, dans les projets de maisons de santé, notamment sur lequel je travaille moi pour Bignou, on prévoit dans la maison de santé un logement pour le jeune praticien. Et c'est vrai qu'il fallait y penser, mais c'est quand même, à mon avis, une sage précaution, parce que selon, effectivement, le lieu où on se trouve, eh bien, le jeune praticien, qu'il soit médecin, enfin, étudiant en médecine, étudiant sage-femme ou infirmier ou kiné, pharmacien, je ne sais pas, en l'occurrence, mais en l'espèce, vous voyez, on lui donne cette possibilité de se loger sur place. Et ça fait partie des obligations. Quand on construit une maison de santé, aujourd'hui, il y a vraiment un lieu qui est dédié pour ça. Ça veut dire qu'on a réfléchi que, quelquefois, finalement, il y a des petites choses qui peuvent aussi faire la différence. Parce que, en somme, ce sont des étudiants comme les autres. Et que se déplacer loin, c'est une difficulté. Éviter les allers-retours en est une autre. Un dispositif intéressant également, on a, pour le département de la Vienne, un dispositif de bourse qui pourrait paraître incitatif. On pourrait échanger à ce sujet-là parce qu'on verra que ça ne l'est pas toujours. Donc, je parle au niveau local. Il y a aussi ce même dispositif au niveau de l'État. Un montant de bourse qui peut être important quand même dans un cursus universitaire, puisque le montant maximum qui peut être donné à un étudiant en médecine, alors je vous passe les détails, à quel moment ça commence, à quel moment ça s'arrête, mais c'est plutôt vers la fin d'études, on peut effectivement bénéficier d'une bourse de 38 400 euros, notamment grâce au Conseil général. Ici, il y a une petite commission qui se réunit. Quand bien même, les médecins, là, pour le coup, médecins ou dentaires, également, le propose aux dentaires aujourd'hui, s'engagent à s'installer sur une durée de 7 ans. Mais alors ici, une durée de 7 ans, pas n'importe où, puisqu'on va effectivement ici profiler des cantons, enfin, on va déterminer des cantons, dont je ne vous donnerai pas la liste, parce que bien sûr, c'est pas une liste qui est figée, parce qu'en fonction du moment où on sort de la fin d'études, sortie d'études ici, eh bien, des besoins peuvent être différents. Donc, on sait que, dans tous les cas, le Conseil général va vous dire, on vous installe ici. C'est un vrai débat, ça, de savoir si on oblige les jeunes à s'installer à tel ou tel endroit. Bon, là, c'est la contrepartie. Et je l'ai évoqué aussi, ça, c'est plus la région qui aide à l'enseignement, indemnisation des médecins généralistes installés en zone rurale pour accueillir en stage des étudiants en médecine, et notamment, ici, ce sont les externes. Un autre dispositif, intéressant qui concerne ici la région. Alors, quand je vous dis la région Poitou-Charentes, d'autres régions le pratiquent également. Il y a un partage d'expérience ici qui montre que d'autres le font. La région aide les étudiants en médecine, les externes et en médecine générale les internes, à effectuer un stage chez un praticien exerçant en zone rurale, des indemnités de déplacement et pour les internes de logement. Oui. Donc la problématique du logement, docteur, a priori, c'est important, si j'en crois ce que nous pratiquons, nous, les collectivités. À partir du moment où on a posé cet état des lieux rapide, alors volontairement je suis rapide parce que je voudrais quand même laisser la parole au deuxième orateur et surtout un échange dans la salle, c'est évident. Pensée globale et agir local, vous allez voir, j'ai fait un slide. J'ai volontairement choisi le ministère des Affaires sociales et de la Santé pour illustrer qu'il y a une politique nationale, une volonté nationale qui doit être portée ici. Et puis également, j'ai volontairement fait ce petit clin d'œil, les états généraux de la démocratie territoriale, qui vont vraiment acter les lois de décentralisation à venir. Dans les lois de décentralisation à venir, il faut entendre ici les compétences que l'on va donner aux collectivités territoriales pour agir sur les politiques, notamment de santé. Alors évidemment, comme dirait l'autre, ce que je vous propose n'engage que celui qui a écrit ce slide, c'est-à-dire moi, ce transparent. Pensée globale, j'ai l'intime conviction, mais je pense que je ne suis pas le seul. On a véritablement une problématique de démographie ici médicale. Démographie médicale, j'ouvre quand même juste une petite parenthèse. Étant universitaire et surtout vice-président de l'université de Poitiers, on a constaté, ce qui est très étonnant, cette année, une baisse des effectifs à l'UFR de médecine. Oui. C'est très amusant ça. Parce que finalement, on nous dit on manque de médecins. On nous dit que les bancs de l'université, notamment les bancs de la faculté de médecine, sont bondés, archibondés, ce qui est toujours le cas. Je vous rassure, il y en a toujours autant d'étudiants, enfin toujours beaucoup, mais il y en a beaucoup moins. Hein. Le delta est de l'ordre de 300.
En première année
ouais, oui. Première année. Première année, moins 300 cette année. Alors, ils sont mélangés, hein. Je ne sais pas si vous savez, ils sont mélangés. Et vous voyez comme quoi on a des idées reçues, parce que finalement, on se dit, il y en a eu beaucoup, 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 et très peu de sortants, enfin, passage de la première année pour le moins très difficile. Hein. Mais quand bien même, eh bien, paradoxalement, hein, il y en a eu de plus en plus. Et cette année, alors peut-être que c'est propre à une année, hein, il n'y a peut-être pas de tendance générale, mais pour ce qui est de l'unité...
Généraliser voilà, sur les années qui suivent.
On ne peut pas évidemment présager de l'avenir, mais on constate, nous, de façon tout à fait étonnante et inquiétante, parce que ça nous interroge quand même. On peut s'interroger, et pour les effectifs de l'université, en particulier pour la démographie médicale, hein, il y a quand même une variation de 300. Donc, c'est un état de fait qui ne présage pas de l'avenir, mais c'est quand même une vraie interrogation. Ensuite, nous avons évidemment ici une interrogation forte, hein, c'est sur le cursus universitaire. Alors, j'enfonce des portes ouvertes, me diront quelques-uns, mais on est bien d'accord que, notamment pour ce qui est de la médecine générale, hein, le cursus universitaire valorise-t-il assez la médecine générale? Quelques expériences hein, sont mises en place, ici comme ailleurs, hein, dans les UFR de médecine, hein, les unités de formation et de recherche, qu'on appelle les facultés de médecine, hein, où on va notamment proposer dans le cursus des stages chez les praticiens généralistes. Hein. Ça, je pense que c'est une piste à creuser, pour ne pas dire à généraliser à tous. Hein. Cursus universitaire valorisant la médecine générale. D'autres nous diraient, on en a discuté tout à l'heure en déjeunant, mais effectivement, en dînant la médecine du travail, par exemple. Un certain nombre de spécialités qui sont, entre guillemets, les parents pauvres hein, de la médecine. Donc ça, c'est des choses qui, à mon avis, sont à penser globalement, parce que je crois que le ministère de la Santé et de l'enseignement supérieur doit avoir ici à marquer de façon très forte des priorités. Je crois que c'est une des priorités qu'il nous faut marquer. Et puis également, alors c'est pour ça que je disais que ça va certainement défriser quelques-uns d'entre vous, hein, ou alors au contraire satisfaire d'autres. Je suis intimement convaincu, pour être enseignant et pour avoir connu ce système, qu'il y a un moment ou un autre en France, il faudra se poser la question de savoir si, quand on a effectivement ici des étudiants qui passent beaucoup de temps sur les bancs de l'université, où on a véritablement investi dans le savoir hein, auprès de ces jeunes gens, il ne serait pas souhaitable. Alors, d'ailleurs, j'ai mis pour les infirmiers sur les zones d'accompagnement prioritaire, zones conventionnelles opposables. Certains diront que les infirmiers libéraux sont déjà bien contraints, mais je pense que notamment pour les médecins, hein, principalement, il serait souhaitable qu'on nous impose ici l'obligation d'installation. Ça, c'est quelque chose qui, moi, là-dessus, j'ai un avis très, très discutable, mais qui est même, évidemment, ça repose complètement l'idée de la médecine libérale. Hein. Parce que, par définition, la médecine libérale est libérale, mais comme je dis toujours, ce sont quand même des fonctionnaires d'État, puisque jusqu'à preuve du contraire, pour au moins ceux qui sont conventionnés, hein, c'est encore la sécurité sociale, enfin c'est encore nos sous qui payons ces médecins. Donc voilà, là c'est très clivant ce que je vous dis là, mais ça n'engage que moi. Je pense qu'il faut installer les médecins de façon autoritaire, pour dire les choses clairement. Hein. Alors nous, on a proposé au niveau du Parti Socialiste, dans nos groupes de réflexion, d'imposer effectivement l'installation. Dans les propositions du président de la République, ça a été plutôt de dire, enfin du candidat Hollande puis du président de la République, ce serait plus une incitation et un petit peu de nuance. Le président de la République est plus nuancé que Xavier Moigné, c'est normal, on n'occupe pas la même position. Hein. Et évidemment, les risques sont moindres, pour moi en tout cas, de dire qu'il faut effectivement obliger, de mon point de vue, hein, les médecins à s'installer dans des zones géographiques où nous n'avons pas de médecins.
Et dès le début de leurs études, il ne faut pas les prendre en traître quand
voilà,
ils ont
terrain. Voilà, c'est ça, mais ça, le contrat doit être clair. Alors que, vous savez, il y a plein de contrats qu'on n'a pas signés. Et puis finalement, moi, quand j'ai commencé à travailler, si on m'avait dit que j'allais travailler jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, j'aurais peut-être pas signé, mais on m'a dit que la retraite, ça serait vraisemblablement plus comme avant. Et on a changé le contrat sans me demander mon avis. Mais vous voyez, c'est ça l'idée. Hein. L'idée, c'est quand même de se dire que, hein, on a de jeunes médecins, il y a des enseignants qui sont nommés. Les instituteurs, on leur demande pas leur avis. Un certain nombre de fonctionnaires, vous savez, ils passent un concours et on leur dit, voilà, ça sera là, ça sera là, ça sera là. D'accord ? Donc ça, c'est tout à fait discutable et à discuter. De façon plus locale. Alors, de façon plus locale, peu... Pour ne pas dire personne ne remet en cause cette idée de maison de santé ou pôle de santé, appelons-les comme on veut. Simplement aussi, moi, je voudrais creuser un peu une piste avec vous. C'est de me dire, on a une réforme des territoires qui se met en place actuellement en France et se pose la question des compétences des collectivités. Vous savez, hein, on parle de millefeuille. En fait, il ne faudrait pas parler de millefeuille. Il faudrait, à mon avis, plutôt ici, plutôt que de faire de la pâtisserie, réfléchir plus posément hein, et se dire, finalement, on a des collectivités territoriales qui vraisemblablement servent quand même à quelque chose. Enfin, moi, j'en suis de plus en plus convaincu. Vous avez évidemment, vous êtes élu, donc c'est facile de vous en convaincre. Mais je suis un jeune élu et je vois bien comment ça fonctionne et ce qui dysfonctionne. Je suis intimement convaincu que certaines collectivités territoriales font bien, sont compétentes dans certains domaines. Je crois que là, cette idée de bloc de compétences, et notamment donner un bloc de compétences santé au Conseil général, permettrait finalement de financer ces maisons de santé. Vous voyez, il y a plusieurs dispositifs. La région fait quelque chose, le Conseil général fait autre chose. Ça se ressemble beaucoup pour ne pas dire que c'est la même chose. Finalement, on a des financements croisés qui font que, je veux dire clairement les choses, hein, 100 000 euros donnés par la région, 100 000 euros donnés par le Conseil général. Est-ce qu'il ne serait pas plus simple, tout simplement, que le Conseil général soit en capacité financière de donner directement 200 000 euros, hein, et puis est une expertise plus poussée sur les besoins. Moi, je crois beaucoup en ces blocs de compétences. Ça veut dire que c'est une forme de décentralisation très aboutie. Hein. C'est-à-dire que concrètement, on responsabilise les collectivités territoriales sur la politique de santé ou les moyens mis à disposition, ici, sur la santé. Sachez que dans certaines régions, on va au-delà, même dans la région Poitou-Charentes, hein, on finance des matériels. Et ces matériels coûtent quelques millions d'euros. Hein. Il y a vraiment des dispositifs où chaque région fait un peu ce qu'elle veut, hein, où il y a des financements un peu particuliers. Je crois qu'effectivement, il faudra un peu mettre d'ordre là-dessus, hein, sur ces thématiques-là. Hein, donc là encore, volontairement, hein, j'essaie d'être un peu provocateur, même si je pense que c'est une solution qui est tout à fait envisageable. Des blocs de compétences forts, et sans remettre en cause de l'utilité des maisons de santé. L'avis du médecin sera effectivement un peu nuancé, parce que, on l'a dit, hein, les maisons de santé ne font pas venir forcément les médecins. Également, cette idée de bourse aux jeunes professionnels de santé au sens large, hein, ici, quand bien même elle soit conditionnée à des conditions de ressources, ce qui n'est pas toujours le cas, elle soit effectivement ici en fonction de conditions de ressources, parce que ce n'est pas le cas toujours, hein, elle serait à mon avis plus porteuse dans la mesure où finalement vous avez une obligation d'installation, d'accord, qui est claire dès le départ. Hein. L'étudiant commence ses études et il sait que de toute façon, en fonction de l'endroit où il va être effectivement ici, entre guillemets, obligé, hein, ici, de s'installer. Je pense que ces bourses, elles seraient plus incitatives parce que, de fait, hein, vous savez, quoi qu'il arrive, vous serez obligé ici d'être installé à tel ou tel endroit.
Vous parlez des CESP, là.
Oui, non, enfin, ouais. Moi, je parle. Là, en l'esprit, ouais. Je parle vraiment agir local. Non, je parle vraiment des bourses qui sont données par les collectivités, pas les bourses.
Pas les contrats d'exercice santé publique.
Pas les contrats d'exercice santé publique qui sont à un autre échelon. Hein, très clairement, ici, c'est se dire une collectivité qui aide un étudiant, à mon avis, ça aura plus de sens. Hein, si l'étudiant, dès le départ, de toute façon, sait que la contrainte d'installation obligatoire, elle existe déjà. Parce que là, c'est ça. Hein. Vous avez compris que si la collectivité donne de l'argent, elle dit à l'étudiant, on te donne de l'argent à condition que tu t'installes à tel endroit. Qu'est-ce qui se passe dans les faits? Dans les faits, on le voit, nous. Hein. Des bourses sont proposées. Toutes les bourses ne sont pas données parce qu'il y a des étudiants qui ne veulent pas rentrer dans les dispositifs. Et quand bien même, tant au niveau local que national d'ailleurs, ils rentrent dans les dispositifs, certains étudiants remboursent. C'est-à-dire que les étudiants, malgré ce qu'on pourrait appeler des pénalités de sortie, hein, ou des pénalités de rupture, hein, comme quand vous contractez un prêt et que vous partez, vous remboursez de façon anticipée, là c'est la même chose, hein, il y a des pénalités qui existent. Hein, malgré tout, les médecins diplômés cassent le contrat, font une rupture de contrat, remboursent l'argent qui finalement leur a été donné et vont s'installer là où ils veulent. C'est une des limites du dispositif, c'est-à-dire qu'on a profité de la bourse. Et quand on a la capacité de rembourser, finalement, eh bien, on se sauve. Et donc, ça, c'est...
Comme faisaient certains médecins qui faisaient les écoles de santé des armées, ils avaient leurs études payées gratuitement. Et puis, à la fin, bon, ils disaient, oh, l'armée, c'est pas trop mon truc. Et ils préféraient rembourser l'État pour acheter leur liberté, entre guillemets.
Oui, il n'y a pas de système parfait, finalement. Mmh. Parce que c'est ce qu'on appelle les effets d'aubaine. C'est-à-dire qu'il y a un effet d'aubaine qui fait qu'on profite d'un système. Et comme on peut facilement partir, ben, on le fait. Donc ça, c'est les chiffres, on peut les donner, hein, les chiffres, on sait effectivement. Mais quand bien même, hein, aujourd'hui, on a effectivement plus de bourses qu'il n'y a de candidats, hein, tant au niveau local qu'au niveau national. Donc il faut bien imaginer que ce n'est vraisemblablement pas suffisant. Donc voilà globalement moi ce que je voulais vous dire. Alors évidemment ça appellera un échange et puis je vais céder la place.
Oui, merci Monsieur le Conseiller Général. Alors moi, je vous prie de m'excuser, mais on m'a prévenu assez tardivement, donc je n'ai pas eu le temps de vous préparer un beau diaporama comme mon voisin, mais j'ai pris quelques notes. Donc, le Conseil de l'Ordre est un des acteurs donc, des problèmes de démographie médicale, d'accès aux soins, de santé en général, mais il n'est pas le seul. Hein, il y a les facultés de médecine, les ARS, il y a les URPS, les collectivités territoriales, et j'en passe. Donc la situation, bon, dirons-nous, est préoccupante, mais loin d'être désespérée quand même. On est dans un pays quand même développé, et on ne va pas manquer quand même cruellement de médecins dans les 5 ans qui viennent. Mais on est dans une période de transition. Période de transition parce que les médecins en activité quand même ont un certain âge. La moyenne d'âge des médecins français est relativement élevée, hein, elle est plus de 55 ans. C'est ce qu'on appelle le baby-boom. Et puis d'un autre côté, bon, il y a une population qui vieillit, qui est de plus en plus demandeuse de soins. On développe de plus en plus la prévention, le dépistage. Donc tout ça, ça crée des actes. Donc il y a un petit peu en décalage, si vous voulez, entre l'offre et la demande. Mais bon, il faut éviter de généraliser à partir de cas particuliers, de faits isolés, comme on en a parlé récemment dans les médias. Cependant, il faut quand même être vigilant et préparer l'avenir. Alors, le Conseil de l'Ordre dresse régulièrement des états de la démographie médicale en France. Et il faut reconnaître quand même que depuis quelques mois, il y a un certain frémissement pour les jeunes étudiants en médecine en direction de la médecine générale. En 2006, sur 100 médecins qui s'inscrivaient au tableau de l'ordre, donc étaient docteurs en médecine, seuls 10% choisissaient l'exercice libéral. Et en 2012, ce chiffre est passé à 35%. Donc ce n'est pas négligeable, ça traduit quand même une certaine tendance. Donc contrairement à ce qu'on pense, les jeunes étudiants en médecine sont intéressés par la médecine générale, mais ne veulent plus exercer comme l'ont fait leurs prédécesseurs des années 60, 70 ou 80. Autrement dit, l'image du médecin que vous avez tous connu des années 60, marié, la femme au téléphone, la belle maison, la belle voiture, disponible 7 jours sur 7, ça, cette image-là est définitivement terminée. Les jeunes médecins, maintenant, veulent exercer dans d'autres conditions, pour diverses raisons dont on verra. Mais le système de santé français est toujours un des plus performants au monde et je crois que nous avons tous intérêt à le garder. Qu'est-ce que je voulais... Attendez, je regarde un peu mes notes. Alors, le rôle du Conseil de l'Ordre, ben, comme vous le savez, le Conseil de l'Ordre des médecins a trois missions, si vous voulez. Il a une mission administrative, une mission disciplinaire et une mission de représentation. Et donc, dans ces trois missions, si vous voulez, ils participent directement ou indirectement quand même à l'accès aux soins et à la politique de santé en France. Donc, le côté administratif, c'est-à-dire le Conseil de l'Ordre, donc valide les diplômes et qualifications. C'est-à-dire quand un jeune médecin passe sa thèse, il est nommé, il a un doctorat d'état de docteur en médecine, pour pouvoir exercer, il faut qu'il s'inscrive à l'ordre et son diplôme, non seulement est validé par l'université, mais est validé par le Conseil de l'Ordre. S'il fait des spécialités, des DES, des DIU, etc., tout ça, c'est validé par le Conseil de l'Ordre. Tout ça pour vous dire que les étudiants et les jeunes médecins, nous les recevons au Conseil de l'Ordre. On les reçoit même avant qu'ils soutiennent leur thèse et qu'ils demandent une première licence de remplacement. C'est-à-dire un étudiant en médecine arrivé en 8e année peut prétendre remplacer un médecin installé, moyennant donc l'obtention d'une licence de remplacement. Ils ne sont pas encore docteurs, ils ne sont pas encore thésés, ils sont internes, mais ils peuvent remplacer. Donc à ce titre, on les reçoit au Conseil de l'Ordre, on a un entretien du 10-15 minutes, et souvent ben, on leur demande quel est leur projet de vie, leur projet professionnel. Et là, sans respectant leur liberté, bien sûr, on les incite quand même à s'installer dans les zones où on a besoin d'eux. Et bon, en espérant que le message porte. Donc on le dit aux jeunes médecins pour leur licence, on le dit après aux médecins thésés qui s'inscrivent à l'ordre. Deuxièmement, ben on leur dit que le Conseil de l'Ordre est là pour les aider. Hein, on est là pour leur donner tous les renseignements possibles d'ordre démographique, administratif, pratique, juridique et autres. Et puis si certains d'entre eux ont des difficultés physiques, financières ou psychologiques, ben, au Conseil de l'Ordre, il y a une commission d'entraide qui est faite pour les aider. Donc ça, c'est le rôle administratif. Le deuxième rôle, c'est le rôle disciplinaire. Hein, c'est ce qu'on appelle l'application du code de déontologie. Donc là, ça intéresse plutôt les usagers. Hein, parce que le code de déontologie est dirigé sur l'intérêt des patients et reprend un peu les devoirs des médecins. Donc tous les médecins qui ont un manquement à ces règles de la déontologie, hein, qui fondent quand même le système de médecine à la française, peuvent être traduits devant la juridiction du Conseil de l'Ordre, à condition, bien entendu, que les patients mécontents nous écrivent. Ça, évidemment, si on ne nous écrit pas, on ne peut pas le deviner. Donc, les grandes règles de la déontologie, ben, vous les connaissez. Hein, c'est contenu, ça va vous faire sourire dans le serment d'Hippocrate. Enfin, c'est le secret professionnel, c'est l'information due au patient, c'est l'indépendance du médecin, la liberté de prescription, les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science, les honoraires, etc. Tout ça, c'est contenu dans le code de déontologie. Et l'accès aux soins, c'est-à-dire qu'un médecin, normalement, ne doit pas refuser ses soins à un patient quand il peut le recevoir pour des raisons discriminatoires, quelles qu'elles soient, en particulier des raisons financières. Et nous sommes très attentifs, justement, à certains médecins qui tiquent à recevoir des patients qui n'ont pas suffisamment de moyens pour avancer les frais, qui sont ce qu'on appelle à la couverture médicale universelle, la CMU. Donc le Conseil de l'Ordre veille à tout cela. Et puis la troisième mission du Conseil de l'Ordre, ça rejoint un peu le travail de mon voisin, c'est le rôle de représentation. Le Conseil de l'Ordre est représenté dans diverses instances nationales, régionales ou départementales, uniquement quand même avec un rôle consultatif. Le Conseil de l'Ordre n'a pas de rôle décisionnel. On lui demande son avis, bon, mais il n'a pas de rôle décisionnel, sauf dans le domaine qui lui est imparti, c'est-à-dire la déontologie. Donc il travaille avec les collectivités territoriales, avec l'ARS, les URPS, la Caisse d'assurance maladie, etc. Et je ne vais pas en reparler parce que Monsieur le Conseiller général en a parlé avec beaucoup, beaucoup de compétences. Il s'intéresse beaucoup au projet de maison de santé pluridisciplinaire, etc., etc. Le Conseil de l'Ordre aussi, le quatrième volet en annexe, c'est l'entraide, ce qu'on appelle la confraternité. Et ça concerne peut-être un peu moins, mais les médecins sont comme tout le monde, et ils traversent des périodes difficiles quelquefois dans leur vie, ils traversent des aléas d'ordre psychologique, d'ordre physique, d'ordre matériel, et au Conseil de l'Ordre départemental, il y a une cellule d'entraide qui les reçoit et qui, dans la mesure de ses possibilités, essaye de les tirer d'affaire. Alors, les causes de... Bon, on va parler un petit peu des côtés négatifs. Quelles sont les causes de cette désaffection pour la médecine générale de la part de nos jeunes étudiants? Quoi que je vous dis, il faut tout à fait relativiser les choses. Alors, les causes sont multiples. Il y a des causes sociétales. Le monde a changé. Les notions de dévouement, de sacrifice, maintenant, sont quand même moins développées qu'il y a 50 ans. Et les jeunes médecins, s'ils aiment toujours leur métier, s'ils sont consciencieux, dévoués, ils aiment aussi quand même avoir une vie personnelle, une vie de famille, une vie de loisirs, culturels, etc. Donc c'est aussi une cause. Et puis, deuxièmement, une cause aussi, c'est l'évolution de la médecine. Depuis 50 ans, la médecine a fait d'énormes progrès. Autrefois, on utilisait très, très peu d'examens complémentaires, c'est-à-dire de radio, d'analyse, de scanner, etc. La médecine était essentiellement basée sur ce qu'on appelle l'examen clinique, c'est-à-dire avec les mains, le stéthoscope, les yeux. Donc le médecin généraliste était vraiment au cœur du métier. Maintenant, on s'oriente vers un exercice, disons, pluridisciplinaire, collégial. On le voit déjà en cancérologie, on le voit chez le malade en fin de vie, en psychiatrie, en gériatrie, etc. C'est pas un seul médecin qui gère une problématique à lui seul. Donc les jeunes médecins veulent travailler, mais dans des conditions différentes, c'est-à-dire ils ne veulent plus travailler en solitaire, ils veulent être entourés. C'est pour ça qu'ils apprécient les structures comme l'hôpital, où quand ils ont un problème, ils demandent à un collègue de faire tel examen, un avis à une autre collègue, etc. Alors qu'évidemment, quand ils sont lâchés en solo dans une campagne au fin fond du Massif central, ils se sentent un petit peu désemparés. Mais ça, c'est lié à leur formation, qui est une formation très, très, très pointue en France. Et la médecine, maintenant, c'est plus une médecine d'à peu près, c'est plus une médecine d'approximation. On ne dit pas « c'est un bon docteur, il a un bon diagnostic ». Maintenant, c'est une médecine basée sur les preuves. Bon, alors, médecine ne sera jamais une science exacte, hein, mais on est au pays de Descartes et on aime bien les choses carrées, les choses qui se prouvent. Donc, médecine par l'épreuve, c'est-à-dire, bon, on fait toujours l'examen clinique consciencieux, mais malheureusement ou heureusement, très vite, on débouche vers des examens complémentaires. Tout ça pour vous expliquer un peu la différence entre le médecin solitaire et le médecin de l'an 2020. Alors, des bonnes nouvelles quand même cette année. Beaucoup d'internes qui ont passé donc, les épreuves classantes nationales ont choisi Poitiers pour se former en médecine générale. Donc, la faculté de médecine de Poitiers, le CHU, a une très bonne réputation pour la formation de la médecine générale. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que les médecins, bon, jusqu'à présent, les médecins un peu foncés, comme on dit, le nez dans le guilon, hein, tête baissée, ils travaillaient... je ne sais pas combien d'heures par semaine, alors que maintenant, surtout depuis 2001, là que j'appelle un peu le mai 68 de la médecine, qui a vu les grèves de médecins, la remise en cause de la permanence des soins, les visites de nuit, etc., les médecins maintenant réfléchissent un peu à leur métier, pensent que réussir dans la vie, c'est important, mais réussir leur vie, c'est aussi important. Alors, il faut dire aussi pourquoi des médecins ont une certaine désaffection. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Là, je m'adresse aux psychiatres. Il y a certains médecins qui s'engagent dans la médecine à 18 ans, qui ont une certaine image du métier, un petit peu comme on voit à la télé ou ailleurs. Et puis, au fil de l'exercice, ils s'aperçoivent qu'en fait, la médecine, ce n'est pas du tout ce qu'ils avaient pensé. Ça ne correspond pas du tout à ce qu'ils avaient imaginé. Et ma foi, ils sont déçus. Il y en a certains qui peuvent même faire des dépressions. Il y a eu même quelques suicides à Poitiers il n'y a pas longtemps. Ça, il faut le savoir aussi. Parce qu'il faut reconnaître que l'exercice de la médecine, qui allie un côté scientifique et un côté humain, c'est quand même pas donné à tout le monde. Et il y a les étudiants en médecine sont testés uniquement sur leurs connaissances théoriques et pratiques, mais jamais sur leur état de santé physique ou psychologique. Contrairement à un pilote de ligne ou, d'autres professions dans la fonction publique. Et certains médecins ont des personnalités, voire des pathologies un peu déviantes au niveau psychiatrique, et au fil de leurs études, ça dérape et ça se passe mal. Et quelquefois, quand ça se passe avant l'installation, c'est encore un moindre mal, mais quelquefois, ça peut se passer au-delà de l'installation. Donc, il faut quand même faire très attention et pas forcer quelqu'un à exercer un métier quand même très particulier alors qu'il ne le veut pas. Alors, pour terminer, quelques notions d'avenir qui vont recouper un petit peu celles de Monsieur le conseiller général, des pistes. Alors là, je vous lis, c'est un peu un catalogue. C'est l'encouragement pour les jeunes médecins à s'installer. Ça, c'est le travail un peu des universitaires, c'est le travail des politiques, c'est le travail de la santé publique, c'est le travail du Conseil de l'Ordre aussi quand il reçoit ces jeunes médecins. Essayer de constituer des conditions d'exercice favorables aux médecins. Mon voisin en a très, très bien parlé. Les maisons médicales, une aide, etc. Il faut savoir que les incitations financières, comme il avait été question il y a quelques temps, là, de loyers gratuits, de primes à l'installation dans les universités, n'ont jamais tellement marché. Parce que quand quelqu'un n'a pas envie de s'installer dans le Massif central, pour des raisons X, vous avez beau lui donner 20 000 euros, c'est pas ça qu'il fera changer d'avis. On rejoint un peu à ceux qui remboursent les bourses, etc. Les obligations et les contraintes, ça, malheureusement, c'est un problème politique, parce qu'on est des libéraux, mais on remplit une mission de service public, comme les pompiers, les gendarmes, les policiers ou les instits. Mais alors ça, les obligations et les contraintes, les jeunes étudiants et les internes ne veulent malheureusement pas en entendre parler. Ils veulent garder leur liberté pour le moment. Bien que je leur dise quelquefois, vous savez, vos collègues qui font santé, enfin, il n'y a plus santé navale, mais enfin, santé militaire à Lyon, quand ils sortent, ils sont au moins aussi brillants que les médecins civils, si ce n'est plus, ils ne disent pas, moi, je veux aller à Strasbourg, moi, je veux aller à Perpignan, on leur dit, toi, tu iras sur le Foch, toi, tu iras dans telle base aérienne, etc. Mais bon, là, on est dans un autre contexte. Alors, d'autres pistes. La médecine générale a été revalorisée il y a une dizaine d'années dans le sens que maintenant, c'est une spécialité. On est spécialiste en médecine générale. Donc, on dirait que ça fait une belle jambe parce qu'au niveau des honoraires, on n'a pas le droit de s'aligner sur le spécialisme. Enfin, on est des spécialistes en médecine générale. Des pistes aussi, on en a un petit peu parlé, ben c'est le stage. Alors, jusqu'à présent, les étudiants qui optent pour la médecine générale en troisième cycle font un stage chez un médecin généraliste hein, de 6 mois, hein, je crois que c'est en 8e année. C'est un peu à la fin de leurs études. Alors maintenant, on envisage de leur faire faire un stage chez un médecin généraliste, un stage d'observateur, bien entendu, dès le deuxième cycle de médecine générale, c'est-à-dire dès la troisième et quatrième année. Pour au moins, quand ils vont choisir en 6e année, ils sachent déjà ce que c'est qu'un cabinet de médecine générale. C'est ce qu'on appelle un petit peu le compagnonnage, quoique en deuxième cycle, on ne peut pas leur faire faire grand-chose. Les maisons de santé, ben, on en a parlé. Le contrat exercice santé publique, alors ça, c'est des étudiants soit de deuxième année de médecine, soit de début d'internat, c'est-à-dire donc de 7e année. Auquel on propose quand même une aide mensuelle, c'est en plus que la bourse, une aide mensuelle qui n'est quand même pas négligeable, de 1 200 euros. Mais en contrepartie, hein, ils s'engagent à exercer dans une zone déficitaire, quand ils seront aisés et qu'ils auront leur diplôme, pendant 2 ans ou 5 ans. Voilà. Et donc on leur donne 1 200 euros par mois, hein, pendant mais à condition quand même qu'à la sortie, ils acceptent de travailler dans les zones difficiles comme médecins libéraux pendant 2 ou 5 ans. Alors ça, évidemment, on ne peut pas le faire à tous les étudiants. Il y en a à peu près, je ne sais pas, 5, à Poitiers, 5 ou 6 en deuxième année. Puis il y a à peu près la même chose en première année d'internat. Ça fait une douzaine de futurs médecins qui peuvent bénéficier de ce contrat exercice en santé publique. Les autres pistes, ben, il y a le suivi par la Caisse d'assurance maladie. Hein, il faut aussi lui rendre honneur. Hein, je ne veux pas citer son nom, mais je vois Mme Orlianche, par exemple, qui est une femme extraordinaire, qui est prête à aider les jeunes médecins quand ils s'installent dans toutes leurs démarches administratives, conventionnelles et autres. C'est une femme très, très, très efficace et qui aide énormément les jeunes médecins. On peut parler aussi de délégation de tâches. Hein, quand on manque de médecins, il faut reconnaître que certaines tâches peuvent être accomplies par des non-médecins, hein, des auxiliaires médicaux. Bon, un vaccin anti-grippe, il n'y a pas besoin de faire 10 ans d'études pour mettre de l'alcool sur un coton et piquer dans un bras. Donc, délégation de tâches par des infirmières, par des sages-femmes, par exemple, pour des suivis de grossesse, voire des contraceptions, voire des sapeurs-pompiers quand ils ont des diplômes de secourisme qui sont en présence d'un patient accidenté ou malade et qu'il n'y a pas de médecin, bah, il peut défibriller, il peut poser des électrodes pour faire un électrocardiogramme et le faire interpréter à distance. L'aide des collectivités territoriales, on en a parlé, oui, ça je reviens. Le salariat, on en a parlé. Alors le salariat, ça c'est un problème un peu politique qui remet en jeu un peu tout le système de santé français pour les remplaçants. L'exercice multisite, hein, c'est ce qu'on appelle le cabinet secondaire. C'est un médecin qui est ainsi installé à un certain endroit. Si on sait que dans une zone, par exemple à 15-20 km, on manque du médecin de la même spécialité, on peut autoriser ce médecin à aller faire des vacations, des consultations, par exemple 2 après-midi par semaine à distance de son cabinet. Tout ça, ça passe par le Conseil de l'Ordre parce qu'il faut prouver qu'il y a un manque de la spécialité correspondante dans la région. C'est ce qu'on appelle les cabinets secondaires, comme disait Madame, ou l'exercice multisite. Les contrats collaborateurs libéraux, ben, c'est-à-dire qu'un médecin qui est un peu débordé, qui ne veut pas s'arrêter, mais qui ne veut pas s'associer, il peut se faire aider par un autre médecin, ce qu'on appelle un collaborateur libéral, alors qu'autrefois, c'était formellement interdit parce que c'était assimilé à de l'assistanat. Soit le médecin s'arrêtait et prenait un remplaçant, soit il s'associait, mais il ne pouvait pas se faire aider. Alors maintenant, c'est possible. Vous pouvez prendre un jeune médecin qui va venir le mardi après-midi et le jeudi matin pour vous aider. Il aura ses propres feuilles de soins et il travaillera pour son propre compte. Bon, il vous reversera une petite indemnité pour l'utilisation qu'il fait du téléphone, d'électricité ou autre. Mais c'est ce qu'on appelle le collaborateur libéral. Il n'est pas associé avec vous. Il peut partir quand il veut. La télémédecine, ben c'est la médecine à travers l'ordinateur, hein, ça pour faire interpréter par exemple des radios, des IRM, des électrocardiogrammes par des cardiologues qui sont à Nantes, à Clermont-Ferrand ou à Poitiers, alors que vous êtes au fin fond de la campagne creusoise ou autre. Hein. C'est ce qu'on appelle la télémédecine, ça se développe. Là, il y a un vice-président du Conseil national de l'Ordre, le docteur Lucas, qui est très impliqué là-dedans. la poursuite de leur activité pour les médecins retraités. Alors, vous en avez un exemple devant vous, hein, puisque les médecins retraités, donc quand ils arrivent à 65 ans, qui peuvent faire valoir leur droit à la retraite, peuvent, tout en touchant leur retraite, continuer leur activité libérale, d'ailleurs, ou autre. Alors qu'avant, c'était pareil, c'était formellement interdit. Donc, ça permet à certains médecins encore qui se sentent en forme, pas trop décalés, bah, d'assurer quand même une continuité des soins de leur propre clientèle, parce qu'en attendant de trouver un repreneur. Les médecins issus de l'Union européenne, donc on en a parlé, donc au Conseil de l'Ordre, on en reçoit de temps en temps, essentiellement de Roumanie, quelquefois de Scandinavie, de Belgique, quelquefois du bassin méditerranéen. Donc nous, puisque je suis représentant du Conseil de l'Ordre, la seule chose qui nous intéresse, en dehors des obligations administratives, politiques, judiciaires, des diplômes qui soient en règle avec les règles de l'Union européenne, c'est la maîtrise de la langue française. Voilà, quand on les reçoit, hein, on est deux à les recevoir, on s'assure, sans leur faire passer un examen, parce qu'on n'est pas à l'habilité pour ça, on n'a pas le droit de le faire, mais on s'assure qu'ils maîtrisent bien la langue française. Parce qu'en médecine, l'interrogatoire et les deux débuts de la consultation, si on ne maîtrise pas bien la langue française, on peut quand même avoir des difficultés. Maîtrise de la langue française, connaissance du système de santé français, puis connaissance un peu des coutumes françaises. Quand on les reçoit, on s'appuie là-dessus. Alors, il y en a certains qui ne posent pas de problème. Quand il y a un problème, on leur dit, écoutez, perfectionnez votre langue, allez faire un stage à l'hôpital, à l'université, n'importe où, et on vous revoit dans 6 mois pour voir si vous avez progressé dans ce domaine. Bon, les honoraires, bon, ça c'est un problème politique et conventionnel. Bon, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez? Les dépassements, tout ça, on pourra en parler toute la soirée. La fonctionnalisation, on en a parlé. L'installation réglementée, j'y reviens pas. Et ben voilà, je vous remercie de votre attention.
Bon, mais maintenant, c'est à vous de poser des questions ou de faire des réflexions.
Merci. Une réflexion et puis plusieurs questions, peut-être. Je voudrais compléter ce tableau parce qu'il y a un grand absent pour moi dans ce tableau. C'est quand on parle d'accès aux soins, il y a aussi l'accès aux médicaments. Et le pharmacien, c'est... je ne suis pas pharmacien d'officine, hein, je précise. Mais enfin, pour moi, le pharmacien, c'est le professionnel de santé qui est le plus accessible dans votre rue ou dans votre territoire. Sans rendez-vous, vous pouvez rentrer et la porte est ouverte et vous pouvez demander conseil. Et vous avez un professionnel de santé qui est là pour vous aiguiller. Et qui, depuis la loi HPST de 2009, voit ses missions renforcées et ses modalités de rémunération, je le signale, sont bouleversés puisqu'on va vers les honoraires. C'est-à-dire que le pharmacien ne va pas être rémunéré sur le nombre de boîtes qu'il vend et le prix des boîtes, mais il va être rémunéré petit à petit, une introduction de 12,5% d'honoraires à partir de 2013. Donc on a là, à mon avis, un professionnel qu'il ne faut pas négliger dans cette coordination des soins et dans cet accès aux soins et dans cette coordination des professionnels de santé. Pour moi, c'est un pivot incontournable. Alors je pense aux études aussi, je reviens et je me demande s'il n'y a pas là justement un problème lié à la réforme des études, puisque pour ceux qui ne le sauraient pas, il y a eu un grand bouleversement. Les études de médecine, pharmacie et d'autres études qui conduisent à des professions de santé ont été regroupées en première année dans l'année PACES, c'est-à-dire première année commune d'études de santé. Et donc, les étudiants qui rentrent dans cette première année ne savent pas s'ils vont faire médecine, pharmacie. Enfin, ils peuvent être plus ou moins motivés, mais ensuite, ça complique beaucoup les choix et je crois que ça pose beaucoup de problèmes. Enfin, ça, c'est ce qui m'est relaté quand je parle avec des étudiants et avec des enseignants. Alors, vous avez... je m'adresse d'abord aux politiques et décentralisation, oui, mais... Quand l'objectif est d'assurer la même qualité de soins, les mêmes moyens pour soigner les gens et une harmonisation des pratiques au niveau de la France, au niveau du territoire national, est-ce que la décentralisation, je dirais entre guillemets à outrance, ne va pas à l'encontre de cet objectif ? dans la mesure où on pourrait aboutir à des accès aux soins qui seraient très variables selon qu'on se trouve dans un territoire qui dispose de budgets confortables ou de territoires dans lesquels on est en pénurie. Donc je crois que le rôle de l'État là, est très important, et décentralisation, oui, dans certains domaines, mais là je pose une question. Il me semble qu'il y a un risque de voir justement les écarts se creuser entre les territoires. En ce qui concerne le Satisfait Kit concernant le système de santé français, je dirais oui, le système de soins, mais pour tout ce qui est de la prévention, de la promotion de la santé, tous ces domaines-là, me semble encore, malgré les discours, pas tellement rentrer dans les mœurs. Et je ne pense pas qu'on soit très performant si on se compare aux autres pays européens. Voilà, c'était
les culturel. À propos de la prévention, là, vous savez, Dogville, que vous connaissez, s'occupe du dépistage du cancer du sein en proposant des mammographies à toutes les femmes entre 50 et 75 ans. Et malheureusement, malgré les campagnes, le relais par les médecins, les résultats ne sont pas à la hauteur des objectifs fixés au départ. Hein. Ils voulaient cibler 80-85% des femmes, on en est un peu plus à 50%. Donc ça ne vient pas uniquement quand même des professionnels de santé, ça peut venir aussi des usagers, hein, qui sont négligents.
Pour répondre aux deux questions que tu as posées, première question, sur l'organisme. Non, mais on a les questions, on y répond un petit peu. Hein. Donc, pour la première question sur l'organisation effectivement des cursus, hein, qui m'intéresse aussi, alors, il y a un constat qu'on fait, malheureusement, c'est que finalement, cette manne d'étudiants qui nous arrive a quand même, pour quelques-uns d'entre eux, une orientation assez spécifique, c'est-à-dire que la première année est commune kiné, sage-femme, médecin, pharmacien. Ce qu'on en sait, nous, c'est quand même, il y a des étudiants qui arrivent là par hasard, ils font médecine, ils font une première année de médecine. Beaucoup ne savent pas véritablement ce qu'ils veulent faire, mais quand même, on peut avoir une petite espérance d'enseignant. Hein. On a quand même cette espérance qu'ils viennent là quand même par choix, d'autant plus qu'il y a un concours à la fin. Le seul risque qu'on voit à cette mutualisation de formation, c'est que c'est une orientation qui peut être par défaut. C'est-à-dire, bah, finalement, puisque c'est le classement, hein, qui détermine ce qu'on va faire, hein. Bon, y a le médecin, le dentaire, et puis après, bon, y a ceux qui veulent être pharmaciens. Je pense que quand on veut être pharmacien, je ne sais pas si on a vraiment envie d'être infirmier, kiné ou sage-femme, parce que ça ne me semble pas être quand même le même métier, me semble-t-il. Hein. Et puis après, c'est que dans les fins de liste, on va dire, ou dans les fins de tableau, hein, si vous me permettez cette expression maladroite ou malvenue, eh bien, il y a une orientation. Bon, quelques exemples de jeunes qui sont dans mon canton, bah, ils partaient pour faire médecine et on est sage-femme. Ou alors, voilà, on est kiné. Alors souvent, heureusement, ça se finit toujours bien parce qu'ils y trouvent du plaisir. Hein, ces métiers qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Hein, donc, heureusement pour beaucoup, il y a quand même un plaisir à exercer ce métier. C'est finalement ce seul risque. L'essentiel du risque, c'est quand même de tous ces déçus qui n'auront aucun concours en fait. Hein. Mais bon, la mutualisation, moi sur le fond, je n'ai pas d'avis parce que je ne suis pas un praticien et un spécialiste de ces champs disciplinaires. La deuxième remarque, c'est effectivement sur ces problématiques de décentralisation. Effectivement, c'est une vraie question. Alors là, je suis intimement convaincu qu'il y a un certain nombre de prérogatives qui reviennent à l'État. Alors, sur la qualité de la formation des soignants, de manière générale, hein, et des étudiants plus spécifiquement, mais je veux dire de manière générale, de tous les étudiants et plus spécifiquement des professions de santé, c'est une compétence qui doit rester effectivement à un État, hein, au gouvernement français en l'espèce. Enfin, de mon point de vue, sur les programmes et sur la qualité de formation, on a à souhait, vous allez me dire, on est peut-être naïf, hein, mais je crois qu'un étudiant qui est formé à l'université de Poitiers et un étudiant qui est formé à l'université de Dijon, normalement, hein, il doit avoir le même niveau de formation, au moins la même qualité. Après, ce qui est évoqué, c'est effectivement les moyens mis à disposition. Alors là, les moyens mis à disposition, c'est la vraie problématique de la décentralisation. C'est-à-dire que concrètement, quand on a un acte de décentralisation, il faut aussi se donner les moyens. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que je suis aussi élu, je m'intéresse à ces problématiques-là. Ce qu'on appelle les péréquations, vous savez, c'est-à-dire que concrètement, il y a une péréquation qui fait que les moyens financiers sont partagés de façon beaucoup plus équitable, va-t-on dire, voire égalitaire, mais au moins équitable, c'est-à-dire que les régions ou les départements les plus riches, parce que, je vais vous donner un exemple, un département riche, ben c'est typiquement un département où il n'y a pas où la concentration des personnes âgées est faible, donc ce qui coûte à un département, notamment, c'est la prise en charge de la vieillesse. Les départements où on a effectivement beaucoup plus de jeunes que d'anciens, eh bien, c'est des départements qui ont des dépenses sociales liées à la prise en charge de la vieillesse qui sont moins importantes. Donc, on dit que ce sont des départements riches. d'autres départements, malheureusement, où il y a moins de jeunes, où il y a une concentration de personnes qui aiment y vieillir, auront évidemment des problématiques de prise en charge de la vieillesse plus importantes, donc des coûts plus importants. La vraie décentralisation, elle se joue là aussi, c'est-à-dire qu'il faudra à un moment ou à un autre avoir une péréquation financière qui fasse qu'on partage un petit peu tout ça. Et à partir de là, on peut supposer qu'il y ait des moyens un peu équivalents, entre guillemets, hein, sur la mise à disposition, et là j'entends bien, hein, non pas de formation, mais de structure. Et c'est en ça où il faut être très clair sur ce qu'on définit comme compétence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une collectivité territoriale a les mêmes compétences, c'est ça aussi, un petit peu ce que tu soulèves, enfin, c'est pertinent la remarque, parce qu'en fait c'est ce que je voulais dire, moi, c'est que concrètement, en fonction des capacités financières des régions, il y a des régions qui vont très loin, il y a des départements qui font beaucoup, et forcément il y a des départements et des régions qui sont moins riches et qui font moins. Et là, ça peut créer effectivement une inégalité, une inéquité qui n'est pas acceptable. C'est pour ça que je pense qu'une décentralisation bien bordée, on va dire, hein, qui donne de véritables compétences, hein, soit au Conseil général, soit à la région, avec de véritables politiques, enfin de véritables moyens financiers équivalents, fait qu'on a cette espèce d'égalité à l'accès aux soins, hein, qui se joue sur les territoires, mais de façon tout à fait équitable. Parce qu'aujourd'hui, c'est une vérité, hein, il y a des départements où il fait bon vivre, mais il y a des départements où il fait bon vieillir, il y a d'autres départements où malheureusement il ne fait pas bon vieillir, non pas parce qu'on est plus malheureux, mais parce que par exemple pour aller en maison de retraite, c'est énormément coûteux. Il y a des départements où effectivement l'accès dans des EHPAD publics, le coût mensuel est moins important, et il y a d'autres endroits où il y a moins de moyens, il y a moins de locaux, il y a moins de dispositifs, et il y fait bon y vieillir probablement, mais ça arrive à un certain âge, ça peut être un peu plus. Mais je crois qu'il y a vraiment... Enfin, pour moi, c'est la décentralisation, c'est pas plus d'État, c'est vraiment un État fort sur un certain nombre de domaines classiques, hein, bon, notamment la formation. Moi, je suis universitaire, donc il est hors de question pour moi d'envisager des diplômes comme ça se fait dans certains pays, où c'est finalement un département, une région, une grande structure, un lander ou je ne sais quoi, un État qui, fédéral qui, finalement... Enfin, qui pourrait évidemment ici dire, bah, nous on fait ça, bah, la médecine par exemple, imaginez à terme, la médecine, bah, dans Poitou-Charentes, on n'en fait pas. D'abord parce que ça coûte trop cher. La sociologie, n'en parlons pas. Alors la philosophie, je n'ose même pas l'imaginer. Hein. Vous voyez, ça voudrait dire que finalement, on donnerait cette capacité à certaines régions de dire, bah, ça coûte cher, donc ça ne sert à rien. On forme.
Rentable.
C'est pas rentable. Ça, c'est pour moi inacceptable. Enfin, dans mon schéma d'enseignant, c'est au-delà de ce que je pourrais supporter. Mais la question est juste, il faut essayer de faire les deux, c'est pas facile. Hein. Moi, j'arrive effectivement avec mes gros sabots en disant, ben voilà ce que je pense. Ça fait des années que d'autres ont dû penser comme moi, et puis d'autres se sont heurtés à des difficultés. Et pour le pharmacien, puisque tu sais que c'est un sujet qui m'intéresse aussi, mais qui n'était pas le propos du soir, j'ai un peu oublié les pharmaciens. Et ça, c'est amusant, parce que malgré mon jeune âge, hein, moi, j'ai le souvenir que quand on avait un petit souci, on n'allait pas chez le médecin, et que ma maman, elle m'emmenait chez le pharmacien. Et avant d'aller chez le médecin, il y avait un premier filtre qui s'appelait le pharmacien. Et on allait voir ce gentil pharmacien qui nous donnait des sucettes. Donc c'est pour ça que je le trouvais bien sympathique. Hein. Et ça se fait plus beaucoup d'ailleurs, ça, entre parenthèses. Hein. Et c'était lui le premier filtre, en fait. Hein, c'est qu'il ne m'en donne plus à moi, mais... Ah oui, c'est ça, en fait. J'ai dû vieillir depuis. Mais vous voyez, on allait chez le pharmacien. Et le pharmacien revient dans, effectivement, un des avantages, j'en vois pas beaucoup, mais au moins celui-ci, dans la loi Bachelot, hein. C'était de remettre au centre du dispositif de soins les pharmaciens, absolument. Et il ne faudrait pas les oublier parce que ce n'est pas le propos du jour, encore que l'accès aux soins, c'est aussi les médicaments. Mm-hmm. Sachez que dans peu de temps, on va parler de la désertification officinale, hein, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des endroits où il n'y aura plus de pharmacie.
Oui, justement, je voulais préciser que en ce qui concerne la démographie médicale, c'est aussi des problèmes de démographie médicale, c'est aussi des problèmes de démographie pharmaceutique. Dans la région, ces régions-là, les problématiques sont un peu différentes aussi, il faut relativiser. Mais on a une disparition des pharmacies, soit pour des raisons communes, soit pour des regroupements dans des conditions, qui font que les pharmacies en zone rurale vont se trouver de plus en plus éloignées. C'est un problème aussi. Au niveau des étudiants, c'est
Bonsoir, Baptiste Pinel, bon, je vais me présenter, je suis président du syndicat des internes et anciens internes en médecine de Poitiers. Déjà, je suis tout à fait honoré d'être ici, que l'accès soit libre, et quand d'être venu avec certains de mes collègues. C'est vraiment une thématique qui, nous, futurs médecins, nous intéresse plus particulièrement. Et j'encourage les associations, le Conseil général, l'université, le Conseil de l'Ordre à venir nous rencontrer. On a des choses à dire, on a aussi pas mal d'idées. La problématique de l'accès aux soins est tout à fait intéressante. On en parle énormément depuis quelques semaines via ces négociations conventionnelles. On en a parlé aussi ce week-end du fait d'un fait divers tout à fait déplorable. On parle de déserts médicaux. Moi, j'aimerais savoir si quelqu'un ici a une définition précise de ce qu'est un désert médical. Est-ce qu'un désert médical, c'est une zone géographique où il n'y a pas de médecin? Est-ce que le fait d'avoir un ophtalmologique en bas de son immeuble, mais d'avoir 2 ans d'attente, c'est un désert médical? Il y a quand même beaucoup de questions à soulever avant d'essayer de trouver des solutions. Pourquoi il faut poser une définition, à mon sens, vraiment précise? Pourquoi il va falloir trouver des indices? Et c'est quelque chose qu'on peut tout à fait déléguer aux ARS via les SROS. C'est que si on veut voir l'efficacité d'une part, de toutes les mesures incitatives et de toutes les politiques qui peuvent être menées à l'échelon national et à l'échelon régional, il va falloir des indices précis pour pouvoir évaluer tout ça. Donc moi, voilà, je...
Alors, je me permets un embryon de réponse. Il y a quelques années, l'Observatoire régional de la santé a passé au crible tous les cantons de la région Poitou-Charentes à partir d'une batterie de 8 indicateurs, je crois, qui combinaient des indicateurs d'accès aux soins, alors différents types de soins, je ne me souviens plus lesquels, et des indicateurs de fragilité sociale. Et il se trouve qu'il existe dans la région des cantons qui cumulent à la fois des indicateurs sociaux très négatifs et des indicateurs d'accès aux soins très négatifs. Alors je ne sais pas si ça correspond à une définition attendue de déserts médicaux, mais en tout cas c'est sûr qu'il n'y a pas d'équité, d'égalité des territoires au regard des besoins des populations.
Oui, alors en principe, on...
Vous savez, faut pas s'illusionner. Quand dans un canton, il n'y a pas de médecin généraliste, il n'y a pas non plus d'ophtalmologue. Hein.
En principe, pour les urgences, c'est 30 minutes maximum. Et pour l'accès aux généralistes, c'est 15 minutes.
Je peux répondre également. Alors, il n'y a pas de... Alors, merci de votre présence, parce que je sais que vous êtes très actif, parce qu'on s'est croisés lors notamment d'une conférence qui est organisée par le Conseil général sur la perspective et le devenir médical. Donc, je sais que cette association est très engagée sur les... Alors, juste pour répondre en partie, alors notamment sur l'ARS, hein, sur le projet de santé qui avait été présenté par l'ARS, hein, il est convenu, alors je ne sais pas si c'est un indicateur qui est partagé, mais je pense que si l'ARS l'utilise, dans les soins de première, ce qu'on appelle les soins de premier recours, on considère qu'on doit normalement baliser une zone, enfin un accès aux soins, on parle de minutes en fait.
C'est 15 minutes.
20-30 minutes. L'ARS considère qu'effectivement, les soins de premier recours, c'est évidemment pas l'ophtalmologie, hein, c'est de l'ordre de 20 à 30 minutes. Alors après, évidemment, ici, l'actualité nous montre que quelquefois, c'est beaucoup plus. Et puis qu'il y a des circonstances qui font que... J'ai envie de dire, je ne suis pas médecin, mais je ne suis pas sûr que même 15 minutes, même moins, ce n'est pas toujours ce qui va faire la différence et ce qui va sauver des vies, je ne sais pas. Hein, parce que j'ai lu aussi dans la presse qu'on avait le moyen d'héliporter les patients. Alors, si effectivement, à l'avenir, c'est l'hélicoptère... Ça m'a un petit peu perturbé quand j'ai lu ça dans la presse, puisqu'une des réponses qui avait été donnée, notamment sur les problématiques de maternité, vous avez lu ça comme moi dans la presse, hein, c'est de dire, oui, mais on est sauvé, parce que finalement, la femme qui a besoin d'accoucher, même si elle n'a plus l'accessibilité à la maternité, on va pouvoir effectivement l'héliporter. Donc j'ai commencé à couper quelques arbres dans mon jardin, parce que je me suis dit que si l'hélicoptère devait arriver demain...
Oui, attendez. Ouais. Oui. Enfin, moi, je peux au moins donner aussi un élément de réponse. Parce que ça fait plus de 10 ans qu'il existe une cartographie interactive Carto Santé. Hein, c'est l'assurance maladie qui l'a mis en place. C'est l'ARS qui le gère en ce moment. Donc, Carto Santé, c'est relativement à jour. Quand je dis relativement à jour, c'est que c'est à partir de Carto Santé que les zones conventionnelles opposables et les zones prioritaires sont déterminées, et qu'en fait, les éléments sont donnés dans Carto Santé, c'est-à-dire que vous pouvez savoir comment on détermine ces zones, à partir de quand. Donc on a le nombre de médecins, généralistes, spécialistes, le nombre d'infirmiers, le nombre de kinés. On les a donc par pseudo-canton, c'est-à-dire que c'est des zones d'attractivité, ce n'est pas des cantons stricts, puisque ça ne veut pas dire grand-chose. On a les plus de 55 ans. Là où ça pose des problèmes, c'est effectivement quand il n'y a qu'une personne, parce qu'après on ne fait pas des statistiques, parce que les gens seraient repérables au niveau statistique, parce qu'ils sont trop peu nombreux. Donc vous avez ça maintenant qui est suivi depuis 10 ans et qui donne quand même une image à peu près à jour, une image bien de l'ensemble du pays. Parce que nous, ça marche en Poitou-Charentes, mais ça marche dans les autres régions. Donc là, on a quelque chose, et on peut contester les éléments qui servent à la détermination, mais on les a, les éléments. C'est-à-dire qu'on sait qu'on considère que la zone est fragile quand il y a moins d'un médecin pour tant de milliers d'habitants, quand les spécialistes sont à plus de 100 km, parce qu'on estime qu'il y a des services de proximité qui sont le médecin généraliste, l'infirmier, un kiné, et puis des services qui peuvent être un peu plus éloignés ou un peu plus regroupés. Donc, je veux dire, on a une définition et des résultats liés à cette définition. Donc, au moins, ça, on sait. Et on sait que les gens sont inégaux par rapport à l'accès aux soins. Et que pour certains, effectivement, sans moyen de transport, assez long, il n'y a pas d'accès, y compris aux généralistes.
Alors là, moi, je voulais juste évoquer aussi un secteur qui est particulier. C'est le secteur du handicap avec les accueils dans les établissements où il y a une carence de médicaux et de paramédicaux avec des postes qui sont vacants depuis plusieurs années. Un accès aux soins pour les gens qui sont hébergés et qui seraient en droit d'avoir une certaine qualité de soins. Des soins qui se dégradent du fait qu'ils sont obligés d'aller à l'extérieur, pas forcément avec des gens formés à leur handicap et... Bon, voilà. Et puis, un problème là, qui se fait sur le département de la Vienne depuis quelques mois, c'est le manque de médecins de rééducation fonctionnelle. On n'a plus que le CHU pour consulter de l'extérieur, depuis le départ d'un médecin de rééducation fonctionnelle sur Saint-Charles. Donc, là, on est quand même dans une limite de pouvoir répondre aux patients qui sont accueillis dans ces structures-là. Et qui sont quelquefois des patients qui sont hébergés de façon... ils sont autonomes pour aller chercher un médecin de rééducation. Aujourd'hui, c'est attendre 3 mois, voire 4 mois. Quand c'est une urgence, comment on fait comment ils peuvent répondre aussi au CHU parce qu'ils sont... Bon, moi, je suis kiné de formation. Donc, je le ressens. Et depuis 1994, je trouve que dans ce secteur-là, on se dégrade, quoi, vraiment.
Alors là, ce que vous évoquez, c'est finalement un champ qu'on a effleuré, mais on a parlé des médecins généralistes, en fait, médecine générale, et la médecine de spécialité. Alors là, il y a encore plus de quoi. C'est vrai qu'on pense tout de suite à la médecine générale. Je ne veux pas être alarmiste, cher docteur, mais là, je pense que le Conseil de l'Ordre s'attache. Alors, pour le Conseil général, on a notamment, nous, envisagé tout ce qui était soins dentaires, mais malheureusement, on pourrait faire l'état des lieux et se dire que malheureusement, il y a énormément de spécialités où il y a des carences évidentes, effectivement, sur la rééducation fonctionnelle, parce que quand vous parlez de mobilité, mais c'est même au-delà d'un problème de mobilité, c'est un problème de distance, c'est-à-dire que concrètement, selon l'endroit où vous vous situez dans le département de la Vienne, c'est quasi impossible de se faire suivre par des spécialistes. La problématique des kinés, elle existe. Enfin, vous évoquez un métier que vous connaissez bien forcément. Je peux vous dire qu'il y a aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, des difficultés à trouver un kiné. Et les listes d'attente sont celles-ci. On parle beaucoup des ophtalmos. Je peux vous dire que moi, dans mon beau canton, un kiné, aujourd'hui, c'est 6 mois, 1 an. Alors, si vous avez de la chance, il va faire un petit effort. Mais pour la plupart des kinés, c'est la saturation de saturation. Et dans notre projet de santé, notamment de maison de santé, on a, avec le maire de la commune, vocation à attirer des professionnels parce qu'effectivement, il y a une véritable demande. Alors, le problème, c'est l'offre. C'est-à-dire que, d'un point de vue de la démographie médicale, alors évidemment, dans une acception large, parce qu'il ne faut pas focaliser que sur la médecine, on l'a dit, les paramédicaux, on a véritablement aussi un souci. Et puis, de la même manière, j'imagine, enfin, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on échangeait. Alors, moi, je parle très librement. J'ai fait cette étude-là, je me suis inspiré d'une étude qui avait été notamment portée par le Modem, qui n'est pas ma sensibilité, où il y avait une très belle étude qui avait été faite sur le devenir de la médecine, et ils avaient interrogé un certain nombre de médecins. Moi, je me dis tout simplement, et quand on est jeune, qu'on soit médecin, infirmier, quel que soit son âge, enfin, quelle que soit sa profession, est-ce qu'on a envie d'aller à la campagne, par exemple? Oui, parce qu'on parle d'incitation. Est-ce que quand on est jeune kiné, on a envie de s'installer dans le sud Vienne, dans le nord Vienne? C'est une vraie question.
Voilà.
Ben là, par contre, vous voyez, j'ai été surpris parce que on a interrogé, on a travaillé avec un certain nombre de jeunes.
Ils ne sont pas opposés au salariat.
Oui, c'est très étonnant, ça. Parce qu'on parle de médecine libérale, de pratique libérale, et contre toute attente, moi, j'avais a priori, vous voyez, c'est pas bien, hein, mais j'avais des présupposés qui laissaient à penser que un médecin, un jeune, il avait envie effectivement de passer beaucoup de temps dans la pratique et surtout de gagner de l'argent, parce qu'il faut dire les choses clairement, sans tabou. Et la grande surprise, c'était de dire que pour beaucoup de jeunes, il y a un confort de vie aujourd'hui qui ne passe pas forcément et uniquement par l'aspect financier, la preuve, parce que...
Et je confirme tout à fait ce que dit mon voisin. Les jeunes ne sont pas du tout opposés au salariat, parce que pour eux, le salariat, ça les dégage de toutes les obligations quand même de gestion d'un cabinet médical, de comptabilité. Bon, un cabinet médical, mine de rien, c'est quand même une petite entreprise avec une comptabilité qui est très, très simple, puisque c'est une comptabilité de toute taxe. Il n'y a pas de TVA, donc c'est des entrées, des sorties, une soustraction, un bénéfice, quelques amortissements. Mais enfin, il faut quand même s'en occuper, il faut gérer, il faut emprunter, faut, quand on a du personnel, etc. Alors que pour eux, le salariat, comme à l'hôpital, bon, ben, ils arrivent, ils ont un bureau, une secrétaire, ils sont dégagés de toutes ces contingences, si vous voulez, matérielles, pour se consacrer essentiellement à leur métier. Puis il faut reconnaître que les salaires des médecins, quand même, du secteur public, ont été relativement revalorisés. Enfin, je parle pas parler... Mais enfin, bon... C'est pour ça aussi que même les médecins qui ont choisi la filière médecine générale, on se les arrache, même dans des spécialités qui ne sont pas initialement la médecine générale. On en a besoin aux urgences, on en a besoin en psychiatrie, on en a besoin en cancérologie, on en a besoin en gériatrie, etc. Donc souvent, quand on leur propose un contrat salarié avec une rémunération correcte, bon, souvent ils sont deux à travailler, ben, ma foi, le choix est vite fait, hein, plutôt que d'aller emprunter un cabinet, faire une clientèle et des soucis, ils sont quand même assez attirés par le salariat. Pour les spécialités, vous parliez de la kiné, ben, pour la psychiatrie, par exemple, dans une ville comme Châtellerault, il y a un seul psychiatre. Alors, et pour nous, médecins généralistes, sont quand même des correspondants dont on a quand même besoin, bien qu'on soit censé pouvoir, grâce à l'universalité du diplôme, soigner tous les cas. De temps en temps, on a besoin d'avis de psychiatres de ville, pas forcément d'hospitaliser. Et là, malheureusement, bah, il faut se débrouiller parce que voilà, c'est des rendez-vous où le téléphone sonne dans le vide ou des répondeurs, etc.
Je voulais rebondir sur l'exemple de la médecine physique et de réadaptation qui est très très intéressant dans notre région. Depuis 3 ans maintenant, il faut savoir que les postes d'internes sont filiarisés. La filiarisation, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les internes, quand ils vont choisir de débuter leur cursus d'interne, ils vont d'emblée s'orienter vers une spécialité. Donc des internes choisissent dès le début de leur internat de faire la spécialité de médecine physique et de réadaptation, et depuis quelques années, il y a de plus en plus d'internes qui sont formés. Est-ce que pour autant, ça veut dire que dans quelques années, il y aura plus de praticiens de médecine physique et de réadaptation dans la région? Absolument pas. Pourquoi? D'une part, parce que là, je m'adresse aussi à l'universitaire qui doit être tout à fait conscient de ce problème. Il faut savoir qu'il n'y a plus d'universitaires en médecine physique et en réadaptation dans la région de Poitiers, ce qui est vraiment un problème tout à fait prioritaire. Ça, je pense qu'on n'y peut malheureusement actuellement rien, que tous les efforts seront faits pour en recruter, mais ce n'est pas l'objet de mon propos. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est que ces internats vont finir leur internat. Ces internats aimeraient rester dans la région, mais après l'internat, il faut savoir que l'immense majorité des internes n'ont pas envie d'aller s'installer de suite et aimeraient avoir des postes qu'on appelle des postes de post-internat, que ce soit des postes de chef de clinique assistant. Et ces postes-là sont tout à fait intéressants, puisque ce sont des postes pour moitié universitaires, chez des personnes qui justement pourraient embrasser la carrière universitaire plus tard, ou des postes d'assistants. Et ces postes d'assistants sont encore plus intéressants parce qu'ils ont la possibilité d'être partagés avec des hôpitaux périphériques. Donc c'est, mettons, quelqu'un qui va exercer moitié de son activité à Niort et moitié de son activité à Poitiers. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces postes-là mais il faut les financer, il faut des financeurs, et il n'y a personne pour les financer. Donc qu'est-ce que font les internes? Et on a encore l'exemple cette année, mais c'est des internes de médecine physique et de réadaptation qui se plaisaient dans la région, à qui malheureusement on n'a pas la capacité d'offrir des postes et qui vont aller vers d'autres cieux où on voudra bien les accueillir. Donc là, c'est tout à fait, à mon sens, c'est quelque chose de tout à fait prioritaire. C'est pour ça que moi, ça me gêne un peu, enfin là, je vais élargir un peu mon propos, ça me gêne un peu qu'on parle d'échec des mesures incitatives, et là, c'est un exemple. Quand on n'est pas allé au bout de ces mesures incitatives, pas plus tard que la semaine dernière, j'avais réuni les internes que je représentais, je leur ai demandé qui dans la salle, ils étaient une petite centaine, qui dans la salle a entendu parler du CESP dont on a parlé tout à l'heure. À part moi, personne n'a levé la main. Personne n'est au courant de ces mesures incitatives. Donc moi, je veux bien qu'on en passe par des mesures coercitives. Il n'y a pas de problème, si un jour faut y venir, on en discutera. Mais je veux dire, il n'y a aucune communication aujourd'hui ou très peu de communication qui est faite de façon efficiente pour ces mesures incitatives, alors même que je pense que c'est des mesures qui marcheraient. Après, il ne faut pas s'arrêter à des mesures incitatives financières pures. Il faut vraiment avoir un accompagnement plus global. Moi, je suis persuadé, et mes collègues aussi, que ces mesures incitatives marcheront.
C'est clair. Alors, juste une petite réponse. La partie universitaire. Alors, la spécificité de la médecine, comme n'importe quel comme champ disciplinaire, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui recrutent des enseignants, et dans ma discipline comme dans d'autres, on a à se spécialiser, et j'imagine que nos collègues de médecine doivent avoir des dada, et finalement ceux qui recrutent doivent choisir des spécialistes plutôt dans ce qui les intéresse. Il suffit qu'il n'y ait finalement pas un patron ou un prof qui dans une discipline excelle, qui fait que, évidemment, quand on est en thèse et on a envie de travailler dans cette discipline parce qu'on va travailler ce patron-là, enfin, ce qui était mon cas, moi j'avais un maître, j'ai choisi cette spécialité parce que mon directeur de thèse, en l'occurrence, était quelqu'un que j'admirais et je voulais absolument travailler avec lui. Donc c'est vrai qu'après, il y a des logiques de carrière qui font que certains internes ont envie de faire ça, mais il n'y a plus de patron pour les suivre et donc ils vont ailleurs, et ce qui est logique aussi. Enfin, j'ai presque envie de dire que c'est même ce qu'on... Alors, je ne sais pas si je devrais le dire aux jeunes internes que vous êtes, mais on nous incite, quand on est en thèse, à voyager, c'est-à-dire concrètement à ne pas rester dans son université de naissance, entre guillemets. Moi, j'ai soutenu ma thèse à La Réunion, c'est pour vous dire. Je suis Poitevin, parce que mon directeur de thèse m'a dit, moi, à l'âge où je suis, je vais à La Réunion. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai suivi. Mais ça m'a fait le plus grand bien, finalement. Et peut-être que c'est aussi quelque chose d'important. Alors, ça pose des problèmes réels, c'est-à-dire que on est dans des pôles universitaires où il y a des spécialités, et puis où les patients d'ailleurs disent, quand on a telle pathologie, alors je n'en citerai pas parce que je veux respecter tout le monde, il ne faut surtout pas aller au CHU de Poitiers, il faut plutôt aller à Tours, parce que le patron est le spécialiste, et ceci et cela. Donc c'est un peu expliqué pourquoi, enfin vous le savez certainement. Alors la deuxième chose, après, sur les mesures incitatives, effectivement, moi je suis toujours un peu étonné, parce que finalement on remet au goût du jour des vieilles recettes, parce que vous savez qu'il y a très très longtemps, il y avait les écoles normales où, effectivement, parce qu'il y avait une politique de démocratisation de la connaissance, on prenait en charge les enfants très tôt et on les accompagnait à l'école normale et on finançait leurs études parce que c'était une promotion, effectivement, sociale très importante, ce qui a permis de tirer de leur milieu un certain nombre d'enfants qui n'auraient jamais eu la chance de faire des études
supérieures. L'ascenseur social.
L'ascenseur social. Sauf qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais je vais peut-être choquer, mais un étudiant, aujourd'hui, l'ascenseur social, ça lui parle peu. Parce que, comme vous devez le savoir, nous, peut-être, encore moi, peut-être, qui ai 40 ans passé, pour mes parents, c'était important que je fasse des études parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas eu la chance de faire. Je peux vous dire que mes enfants, aujourd'hui, si je leur parle de l'ascenseur social, ça va doucement les faire rigoler parce que ça leur paraît tellement évident qu'on est à l'école et on y est tous. Il y a plus moteur, vraisemblablement. Je crois que l'incitation financière... j'enseigne à l'université, je vois le parking de l'université. Je vois les difficultés que j'ai à me garer le matin. Je vais un peu vous choquer. Je vais vous choquer, mais je l'assume complètement, parce que je le dis aussi à mes étudiants. Je pense que vu les difficultés que j'ai à me garer le matin pour aller travailler, et je me rappelle que quand j'étais étudiant, moi, je prenais mon TER et accessoirement le bus, ce qui n'était pas une grande révolution intellectuelle, mais qui était une nécessité, une évidence. Donc je crois que le moteur de l'argent, mais puis aussi parce que les étudiants aujourd'hui ne sont plus dans cette espèce de schéma. C'est-à-dire que est-ce que l'argent est un véritable moteur? Je ne le crois pas. Et c'est peut-être tant mieux d'ailleurs. C'est-à-dire que finalement, on fait des études, ça nous donne une liberté parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette bourse. Et ce qu'ils nous disent, parce que vous parlez d'un dispositif Le doyen Beauchamp était venu nous présenter ce dispositif. D'ailleurs, je crois que vous étiez là ce jour-là. Il nous présente le dispositif, il nous donne les chiffres. Multitude de possibilités de financement. Grand désespoir du doyen Beauchamp qui dit « mais on n'a pas de volontaires ». On n'a pas de volontaires.
Juste une anecdote pour la dernière campagne du CSP. On m'a appelé pour diffuser, diffuser cette offre à l'ensemble des internes. Vous avez diffusé l'offre, je crois, le 6 juin. J'ai reçu le mail le 3 juin, comme ça. Donc on a monté un dossier, effectivement.
Oui, alors après, c'est un autre problème, mais... Oui, je sais, mais... C'est une vraie question, mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a aussi des demandes qui... moi, je n'ai pas de jugement de valeur à apporter, c'est-à-dire que finalement, on peut être jeune et...
L'ascenseur social, dans les années 50, c'était un domaine réservé. Hein.
Oui.
C'est-à-dire, précisez votre...
C'était très limité.
Très peu.
Ah oui, c'est ça, réservé.
C'est la sélection.
Oui, tout à fait.
Ça dépendait du milieu social.
Oui, tout à fait.
Bah, l'ascenseur social a vraiment connu sa plénitude, je dirais, dans les années 70.
Moi, bah oui, les 30 glorieuses, quoi.
Et puis, on revient en arrière.
Hein, oui. Oui, oui.
Vous aurez noté que dans les années 50, l'ascenseur social, j'étais peu concerné.
Oui.
Sans vous offenser.
Je pense qu'on revient en arrière, mais c'est pour ça que les gens sont moins intéressés par les motivations.
Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas ça. Mais
non, je voulais juste répondre à ce que disait le docteur Champin tout à l'heure sur la difficulté de recrutement de jeunes confrères dans le secteur libéral. À l'hôpital aussi, hein, il y a beaucoup de postes vacants, même dans une ville universitaire comme Poitiers.
Oui.
Et un certain nombre de postes sont occupés par des confrères qui ont été formés dans des pays d'Europe de l'Est,
oui.
Ce qui exerce de façon tout à fait satisfaisante. Hein, mais je veux dire, cette crise...
C'est pas spécifique de la médecine libérale.
Spécifique à un mode d'exercice.
Est-ce que c'est une crise? C'est pas une... moi, je sais pas. C'est un problème de démographie médicale ou c'est un problème de vocation?
Je voulais dire, en démarrant, on est dans une période de transition. J'ose espérer que qui dit transition dit évolution vers des entre guillemets des jours meilleurs. Si, je vous en ai parlé, des étudiants au cours de leurs études déjà qui sont un peu déçus, quoi.
Alors justement, la réponse qu'on pourrait donner quand même, pour les soignants comme les infirmiers et les infirmières, on a un taux de déchet si c'est comme
moi,
ça.
Je parle beaucoup des infirmières,
parce
qu'effectivement, je suis
infirmière. Ah mais ça, ben oui, mais le passage première, deuxième année, hein, moi je fais le recrutement des cadres de santé, j'en discutais beaucoup avec les enseignants notamment, qui nous disaient, première, deuxième année, c'est à peu près 25%. C'est 20... Oui, mais ce que je veux dire, c'est parce que déjà, ils se rendent compte, la particularité de l'infirmier, c'est qu'au moins la première année, il met les mains dans le cambouis. Et c'est ce qui fait que ça décourage. Et je crois savoir que la première année, effectivement, alors ça a un peu changé avec le portfolio, là. Mais on met un peu... je crois savoir que quand on est infirmier, on fait encore un petit peu de stage, même en première année. Alors, ou alors, c'est vraiment que ça a beaucoup changé. Et ils sont confrontés à cette réalité. Pour le médecin, c'est pareil. Ça veut dire que sur les cursus... Si un médecin se rend compte qu'au bout de 7 ou 8 ans, ce n'est pas le bon métier parce qu'effectivement, ce qu'il découvre, ce n'est pas ce qu'il pensait, alors dans ces cas-là, mais pourtant, il faut les mettre en stage très vite.
Oui, justement, c'était...
C'était les propositions. Hein.
Voilà.
Et les métiers sont difficiles. Alors, mon médecin préféré m'a dit que c'était notamment... le taux de suicide le plus important était chez les médecins.
Oui,
quand il m'a dit
25%
ça,
de plus que la population
c'est
générale.
Très inquiétant, effectivement.
Pour les infirmiers, là, la région Poitou-Charentes est en train de refaire le schéma des formations sociales et paramédicales. Donc aujourd'hui, on regarde tous les chiffres et on a reçu, par exemple, l'ensemble des directeurs d'IFSI. Les troisième années qui vont sortir à 178, ils sont rentrés à 172. Donc, mais ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui... Alors, je vais vous dire comment c'est possible... C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on a le droit d'arrêter ces études d'infirmiers et de les reprendre. Et que ce qui se passe, c'est que comme quand on a travaillé, on peut percevoir le chômage pendant 2 ans et pas pendant 3 ans. La technique pour faire des études d'infirmier aujourd'hui, c'est de faire une première année, d'avoir l'équivalent d'aide-soignant, de travailler 1 an en tant qu'aide-soignant. Et une fois qu'on a travaillé son année en tant qu'aide-soignant, on retouche le chômage pendant 2 ans pour finir ses études. Ça représente effectivement les abandons qu'on voit là aujourd'hui. Et les IFSI nous disent que, en fait, à part les abandons, entre guillemets, liés normalement à la pénibilité ou à la mauvaise évaluation de ce que peut être le métier d'infirmier et la confrontation donc à la maladie et à la mort qui font peur à certains premières années, mais qui sont sur des pourcentages de 4 à 5%, hein, qui abandonnent définitivement, la plupart reprennent leurs études, soit après une grossesse, soit après avoir travaillé 1 an. Et donc, la promotion qui va sortir de l'IFSI de Poitiers sort cette année plus nombreuse qu'elle était en première année avec les gens qui ont repris en cours de route. Et on est sur des chiffres qui ne bougent très très peu sur l'ensemble des 7 IFSI de la région. Donc là, c'est sûr. Mais effectivement, la durée de vie professionnelle d'une infirmière a plus que doublé, voire triplé, dans les 10 dernières années. C'est-à-dire que le phénomène crise économique globale fait que s'il y a 10 ou 15 ans, il y a pas mal d'infirmières qui abandonnaient le métier, aujourd'hui, très souvent, c'est le meilleur salaire du foyer et la crise économique fait que assez peu abandonnent, même si c'est pas l'envie qui en manque obligatoirement et même si les conditions de travail vont pas en s'arrangeant, loin de là. Mais les suivis des promotions, là, en ce moment, la région Poitou-Charentes les fait pour faire le schéma des professions. Et donc, on est sur des chiffres de sortie qui sont comparables aux chiffres d'entrée en première année.
Oui, j'ai deux questions. D'abord, sur la compétence Conseil Général. J'ai quelques doutes, étant donné que l'ARS, c'est la région. Je me dis, pourquoi serait le Conseil Général qui aurait la compétence santé et pas la région ? Ça, c'est la première question. Et ça permet de résoudre quand même en partie le problème des inégalités de territoire. Il y a quand même moins d'inégalités entre régions que d'inégalités entre départements. Si on songe à la région parisienne, par exemple, on voit bien l'intérêt de péréquation entre les différents départements de la région Île-de-France. Ça, c'est la première question. Puis la deuxième question, c'est vraiment une question de naïf, hein, de béotien. C'est pourquoi il n'y a pas de liberté d'installation pour les pharmaciens alors qu'il y a liberté d'installation pour les médecins. D'où ça vient historiquement, cette histoire ? Et pourquoi ? Voilà.
Alors, je vais essayer de répondre, mais si c'est une bêtise, tu me reprendras. Ça va me permettre de réfléchir, puisque je me l'étais fait expliquer par un juriste. Alors, cette patente, on pourrait dire ça comme ça, hein, le fait de pouvoir s'installer, licence, voilà, hein, en fait, comme c'était considéré, c'était un petit peu le donnant-donnant, en fait, hein, on leur donnait une exclusivité de pratique, m'avait expliqué un juriste, alors ça date du 15e siècle, ça. On leur donnait effectivement une exclusivité, entre guillemets, de délivrance. En contrepartie, on leur imposait finalement, puisqu'on leur faisait comprendre qu'ils n'étaient pas des commerçants et qu'ils étaient effectivement avant tout des soignants. Donc les apothicaires, on leur imposait un lieu de... Pour la petite histoire, je crois me rappeler, pour faire gros, hein, que c'est ça. Alors je pourrais te donner la référence, parce que je l'ai dans mes archives, là. Et c'est ça. Donc c'est Fouassier qui avait fait un article, un papier là-dessus sur l'historique de l'officine. Après ta deuxième question, Gilles, parce que je commence à fatiguer. Ah oui, oui, pardon, bien sûr. Oui, en plus. Excuse-moi. La région, je te prie de m'excuser. La compétence. Alors je vais te le dire, c'est que je pense très honnêtement que de par les pratiques du Conseil général, parce qu'on parle de la santé, mais plus largement des affaires sociales, en fait. Hein, tu sais, l'investissement des conseillers généraux dans les PMI, les choses comme ça. Je crois vraiment que c'est le cœur de métier. Les affaires sociales et la santé, ce sont vraiment ici, c'est vraiment le cœur de métier. Alors, je ne veux pas insulter mes collègues conseillers régionaux, que j'adore, hein, mais je crois quand même qu'au niveau des compétences du conseil général, on a plus quand même une approche terrain. Hein, et bon, et l'ARS, qui est quelque chose dont tel qu'on les pratique aujourd'hui, moi je dis que c'est les préfets de santé, hein. Mais finalement l'ARS est purement administratif et je crois que ça a déconnecté avec le politique qui n'est pas du tout administratif, lui qui est un acteur de terrain, que finalement l'ARS telle qu'on la voit aujourd'hui, elle relaye les politiques gouvernementales quelles qu'elles soient, c'est une courroie de transmission comme une préfecture, hein. Heureusement que le président de l'ARS n'est pas là parce qu'il ne serait pas content, mais ça n'engage que moi là encore. C'est un petit peu des préfets de santé. Les acteurs, les collectivités, bon, c'est vraiment les gens qui font le terrain. Moi, ça ne me paraît pas... Enfin, tu vois, ta remarque, elle a déjà été faite par d'autres, elle est pertinente, hein, c'est vrai. Que pourquoi ARS, on calque le schéma sur les régions, mais il y a plein de domaines où ce n'est plus le cas. Enfin, il y a plein de domaines où, effectivement, il y a cette dissonance un petit peu. Collectivité. Ben oui, mais justement, je pense que c'est vraiment le rôle. Ben oui, mais c'est ce que je crois, c'est bon, typiquement l'ARS, le président de l'ARS vient présenter effectivement son projet auprès des collectivités, comme le préfet nous présente effectivement tous les ans ce qu'ont fait les services d'État. Hein. Et on est effectivement ici à donner un avis, mais je pense que c'est une belle courroie de transmission. Finalement, c'est un bel outil pour la courroie de transmission. C'est un bel outil pour effectivement attribuer les moyens, parce que c'est pas anodin. Hein. Enfin, je crois que chacun ne mesure pas. Enfin, on est peu à mesurer le rôle et l'importance, hein, la puissance qu'a l'ARS aujourd'hui en termes de politique de santé. Comme tu le dis, effectivement, c'est une puissance financière. C'est quand même, quand je dis c'est un préfet de santé, ça veut dire que concrètement, c'est quand même l'ARS qui distribue l'argent. Hein. Donc, c'est pas anodin. Et heureusement que les politiques ont encore un petit peu de pouvoir. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, je fais vraiment la part des choses. C'est-à-dire que l'ARS gère un peu l'aspect financier. Et puis, après, que les compétences soient... Alors, on pourra en discuter, hein, on pourrait les mettre à la région. Mais moi, je pense qu'on sait faire. Il y a un savoir-faire qui existe et c'est pour ça que je...
Et au niveau du Conseil de l'Ordre, c'est la même chose. Il y a un Conseil régional de l'Ordre. Et pour les problèmes que nous évoquons, rien ne remplace la cellule de base qui est le département. Je suis aussi conseiller régional et bon, les problèmes qu'il y a à l'île de Ré ou à La Rochelle ne sont quand même pas les mêmes que ceux de Cognac ou de... Voilà. Enfin, dans la région Poitou-Charentes, il y a deux gros pôles. Hein. Il y a la Vienne et puis il y a la Charente-Maritime. Les Deux-Sèvres et la Charente, je ne dis pas que ça compte pour du beurre, mais enfin, ils sont beaucoup moins peuplés et beaucoup moins actifs.
Je voudrais compléter sur les pharmaciens, parce que je connais un peu l'historique. Les pharmaciens ont un monopole, mais un monopole de compétences qui s'est construit au fil des siècles, sur, je ne sais pas, 6 ou 7 siècles, hein, mais notamment depuis la loi de Germinal en 11 à la Révolution, où les corporations ont disparu et ça a duré 5 semaines. Et les révolutionnaires ont tout de suite réinstallé ce qui existait avant parce qu'il y a eu tellement d'affaires de charlatanisme, d'empoisonnement, de trafic de produits stupéfiants, etc., qu'on s'est rendu compte qu'il fallait pas, il fallait des professionnels qui maîtrisent justement les substances vénéneuses, etc. Tout ça s'est construit à partir de crises. Hein, et ce sont des affaires d'empoisonnement, des affaires de...
Des comptes d'apothicaire.
Et, comment ?
Je dis des comptes d'apothicaire, finalement.
Et donc tout ça, c'était dans un souci de sécurité sanitaire, en fait. Et le pharmacien joue un rôle capital dans la sécurité sanitaire. En ce qui concerne les produits de santé et les pratiques relatives aux produits de santé, de la prescription jusqu'à...
Il est au bout de la chaîne, hein, il est au bout de la chaîne, il ne faut pas l'oublier.
Donc il a un monopole de compétences, ce n'est pas un monopole commercial, parce qu'il n'y a pas que des pharmaciens d'officine, des pharmaciens, il y en a dans...
Oui, l'industrie,
hôpital. Dans l'industrie, hôpital, la distribution, hôpital. C'est une chaîne continue de pharmaciens qui ont des règles de déontologie, un peu construites sur le même type que l'ordre des médecins, hein, avec des particularités. Il y a les industriels, les biologistes, les hospitaliers, les pharmaciens d'officine, etc. Bon, je passe. Où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, les pharmaciens et les médecins avaient une obligation d'assurer des gardes, des astreintes, enfin pas des astreintes, des gardes, et que cette obligation a disparu pour les médecins,
soins.
Permanence des soins. Cette obligation a disparu chez les médecins, mais n'a jamais été remise en cause par les pharmaciens, parce que ça a toujours été considéré comme une contrepartie de leur monopole, justement, une obligation de service public. Ça n'a jamais été discuté ni proposé à l'Assemblée par les représentants des pharmaciens, alors que les médecins, peut-être sont-ils suffisamment soutenus au niveau de l'Assemblée, ont obtenu assez facilement le fait que ça devienne du volontariat. Hein, et c'est devenu du volontariat. D'où la complication pour assurer les
les gardes. Et alors que chez les pharmaciens, le problème ne se pose pas. Et un pharmacien qui ne participe pas au tour de garde est sanctionné pénalement. Il y a une amende si un pharmacien refuse de participer à un tour de garde. Il est sanctionné disciplinairement et pénalement. Donc ça, c'était quelques précisions que je voulais apporter. Mais je pense que je voulais dire une chose ce soir... Je pense que tout le monde... Oui, pardon.
Non, mais terminé. Non, mais vous parliez de des soins des médecins, donc oui. J'ai une petite précision à vous apporter. Oui, alors effectivement, c'est basé sur le volontariat, mais un médecin non volontaire, si vraiment il y a une carence, peut être réquisitionné par le préfet via l'ARS. Hein. Alors qu'on peut être dispensé de garde pour raison de santé, dans ce cas-là, on ne peut pas être réquisitionné. Mais un médecin non volontaire est toujours réquisitionnable. Donc si vraiment il y a un problème de santé publique, il y a un gendarme qui vient chez lui, qui lui dit, mercredi soir, vous allez à la maison de garde. Mais effectivement, alors c'est le volontariat. Disons qu'un médecin qui s'installe en médecine générale, qui ne dit rien, systématiquement, il va être mis sur le tour de garde. Pour ne pas faire de garde, il faut se mettre non volontaire. Voilà. Mais s'il dit rien, il est systématiquement considéré comme volontaire. Et la permanence des soins dans la Vienne, enfin, ce n'est pas le sujet, mais fonctionne relativement bien depuis 2004 ou 2006 avec la régulation, avec les effecteurs. Il n'y a pas de gros problème pour le moment.
Alors le deuxième point.
Au politique.
Alors le politique n'est qu'au conseil général. Alors le financement, c'est en ce moment. Hein. Une bonne question, effectivement, c'est en ce moment. Donc, oui. Alors il y a quelques pistes qui sont. Alors je ne sais pas si c'est le lieu. Hein. On finit là-dessus peut-être, Roland. Peut-être on va en petite salve de questions parce que j'ai vu il y avait deux trois questions oui. Puis on conclut, Roland, parce que je vois que tu avais donné 10h30. Non, mais je sais oui, comment ça fonctionne. Donc, il y a des salariés qui veulent effectivement déboucher.
Moi, ma question va vraiment faire le lien entre ce qui vient d'être dit et la thématique de la soirée qui est l'accès aux soins. Que pensez-vous, politiciens, représentants du Conseil de l'Ordre, concitoyens patients, de la possibilité qui va être prochainement offerte aux mutuelles via le projet de loi de financement de la sécurité sociale de créer des réseaux de soins ? Personnel, en tant que citoyen, en tant que futur médecin, je suis terriblement gêné par cette possibilité qui va leur être permise, parce que pour nous, médecins, directement, ça va impliquer pas mal de choses. On va travailler sous l'égide d'une mutuelle. Donc avec
c'est une atteinte à l'indépendance du médecin. Hein. C'est contraire à l'article du code de déontologie.
Tout à fait, mais c'est, enfin,
c'est l'indépendance du médecin.
Le texte de loi est prêt, et malheureusement...
On verra, c'est à Paris que ça va se...
Et pour les patients, ça peut être d'autant plus dramatique qu'on nous parle d'accès aux soins, que je sache aujourd'hui encore en 2012, le principal garant de l'accès aux soins, c'est la sécurité sociale. Si demain on dit aux mutuelles, c'est à vous de vous occuper de la santé de la population en termes d'accès aux soins, ça va être tout à fait catastrophique. Tout à fait catastrophique, pourquoi ? Mais parce que certains patients, certains citoyens ne vont pas pouvoir se payer des mutuelles. Il y aura clairement un problème d'accès aux soins de ce fait-là, et ça va aussi impliquer le fait que les patients n'auront plus la liberté du choix du médecin si les médecins travaillent pour certains réseaux de mutuelles.
Alors, pour répondre, financement de la sécurité sociale, si j'avais la recette pour l'avenir, je ne serais pas ici, mais à la place de Marisol Touraine, je pense, hein, ou ailleurs, je me ferais payer très cher. Néanmoins, les pistes de financement sont toujours les mêmes. Hein. Alors, la vraie problématique qui se pose dans le financement de la sécurité sociale, c'est la solidarité, quel que soit son âge. Alors là encore, hein, vous avez bien compris ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'arrivé à un certain âge, vraisemblablement, je crois savoir que c'est à partir du moment où on est à la retraite, la solidarité, finalement, semble s'arrêter. Donc on est en train de réfléchir, donc je suis très prudent là-dessus, hein, à l'idée que cette solidarité, elle ne s'arrête pas, quel que soit son âge. Hein, ça, c'est une piste qui laisse à penser que, je dis toujours, moi, que je suis enseignant, je crois avoir un salaire tout à fait convenable, et je pense qu'à la retraite, enfin, je l'espère, hein, parce qu'on m'a quand même promis une retraite, hein, j'aurai une pension de retraite qui me semble assez satisfaisante, et je ne serai pas outrageusement choqué de savoir que je continuerai à cotiser pour la solidarité nationale. Ça, c'est quelque chose, c'est une des pistes. Alors, la contrepartie, j'ai lu aussi ça, parce que je m'intéresse bien sûr à ça. Alors, je vous félicite de continuer à vous battre, parce que ça, c'est important. Je suis agréablement surpris du militantisme des étudiants, alors qu'ils soient médecins ou autres, hein, et continuer à vous battre. Alors, ça, ça m'a interrogé aussi. La contrepartie, c'est que, notamment pour la MGEN, que je suis avec attention, parce que je suis et adhérent et militant de la MGEN, ils proposent, c'est pour contrebalancer hein, ce que vous avez évoqué, l'obligation, en fait, le fait que tout le monde, hein, soit finalement ici et une mutuelle, et donc pour ceux qui ne peuvent pas se la payer, en fait il y aurait une prise en charge qui serait faite, qui serait assumée par l'État et qui fait que tout le monde finalement aujourd'hui bénéficierait d'une mutuelle, et donc que tout le monde aurait cette possibilité de rentrer dans ce type de réseau. Et là je rejoins un peu la question et je n'ai pas la réponse, je me dis mais comment on finance? Parce que ça, c'est la MGEN qui dit, nous, on a la solution, c'est qu'il faut que l'État se débrouille et que l'État prenne ses responsabilités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit avoir une mutuelle. Bah, tout celle qui adhère à la mutualité. Non, non, mais... Il ne faut pas mélanger. Moi, je parle de la mutualité française, enfin, tous les adhérents à la mutualité...
Oui, je voulais m'adresser aux politiques encore pour savoir si un point concernant l'accès aux soins était en réflexion au niveau local, régional plutôt. Je pense que personne ce soir ici n'a de douleur dentaire parce qu'on ne forme pas de dentistes dans la région. Ils vont non. tous ou à Nantes ou à Bordeaux, etc. Et en général, ils ne reviennent pas. Ce qui fait que sur 30 ans, de mémoire, hein, je dis peut-être une bêtise, mais c'est un ordre de grandeur qui est exact. On est passé en 30 ans de 70 dentistes pour 100 000 habitants à 40 dentistes pour 100 000 habitants, ce qui fait que vous pouvez ne pas être surpris lorsqu'il faut trouver un dentiste en catastrophe. Donc ça, c'est un vrai souci, parce que les problèmes dentaires sont à l'origine de beaucoup de problèmes graves par la suite s'ils ne sont pas traités rapidement.
Tout à fait. Au niveau infection, ils viennent chez le généraliste qui leur donne un antalgique, un antibiotique. Et puis...
Mais néanmoins, le conseil général a élargi effectivement la bourse à... Alors, comment on appelle, aidez-moi, les dentaires, ça porte un nom, la spécialité, c'est
l'odontologie.
L'odontologie, c'est ça, je dis pas de sottises.
La dernière.
Mais on aurait pu l'élargir à la psychiatrie.
The last.
Juste, on parlait de l'odontologie, c'est justement tout à fait pertinent comme exemple, de même que les soins optiques, puisqu'il faut savoir que les problèmes d'accès aux soins, enfin les problèmes d'accès financier aux soins, aujourd'hui en France, n'ont été en tout cas prouvés via différentes enquêtes que pour ces soins optiques et dentaires, ces mêmes soins pour lesquels l'État s'est désengagé dès les années 60 et qui ont été confiés aux mutuelles. Donc nous, évidemment, notre grosse peur, c'est si on fait... on adopte la même démarche pour l'ensemble des autres soins, que d'ici 10-20 ans, on se retrouve exactement dans la même situation.
Bon, ben, je crois qu'on va
conclure.
Donc, je tiens d'abord à vous remercier d'avoir animé cette soirée. Et puis, moi, je voudrais dire deux mots, parce que je dis toujours deux bêtises à la fin, donc il est faux. La première, c'est qu'on a parlé quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de soins, très peu de santé. Et que les maisons de santé, vous l'avez dit, on les met en priorité dans des lieux qui sont désavantagés économiquement. Donc, si on veut en faire des maisons de santé, il va bien falloir qu'on s'occupe de la santé et pas que des soins. Et donc là, ce n'est pas possible de faire du paiement à l'acte de médecin, voire d'infirmiers ou de kinés, il va bien falloir trouver une solution pour que dans ces maisons de santé, on fasse de la santé, on essaye d'en produire, on essaye d'en faire. Et voyez les médecins qui aujourd'hui travaillent en cabinet de groupe. Moi, j'en ai vu quelques-uns maintenant, ils commencent à me dire, on ressemble un peu à un dispensaire, parce que les gens du quartier viennent nous voir et tout. Alors moi, pour moi, un dispensaire, c'est surtout pas quelque chose de péjoratif. C'était quelque chose qui rendait un vrai service à une population qui pouvait s'adresser pour sa santé à des professionnels et à des gens qui étaient là pour ça. Donc, si on veut que les maisons de santé, il y a vraiment une chose, c'est qu'il faut que ce soit des professionnels qui s'y collent, obligatoirement. C'est pas des politiques. Les politiques pourront aider en payant des maisons, mais pas en fédérant des gens. Ils peuvent aider à les fédérer, mais il faut que les gens se fédèrent. Donc voilà. Et puis, il y avait un petit dessin dans Le Monde, là. Je ne sais pas si vous voyez les givrés, là, en page 2, là, juste avant les vacances. Il y a un petit dessin que j'aime beaucoup, qui disait que la santé était la préoccupation principale des Français, sauf des médecins, elle vient en deux après la liberté d'installation. Donc, j'espère qu'on n'aura plus de dessins comme ça dans quelques années, mais enfin, cette année, c'était un petit dessin comme ça. Bonne soirée, et puis on vous reconvoquera pour l'année prochaine. Sur le médicament, où il n'y aura pas lieu. Février 2019.